Si vous avez les moyens de vous procurer cet ouvrage qui vient d'être publié, qui est la traduction en français de ce qu'on appelle le Denzinger, la collection des principales définitions de la foi catholique, symboles et définitions de la foi catholique, vous y trouverez un extrait du motu proprio Ecclesia Dei Afflicta du 2 juillet 1988, prononçant donc, condamnant Mgr Lefebvre pour un acte de désobéissance dans une matière grave, une matière très grave. Bien. Et puis, si vous remontez dans le temps, vous y trouverez, au printemps 357, également un décret d'excommunication au sujet d'un susdit Athanase que le pape libère, proclame comme étant exclu de la communion avec moi, de la communion avec l'Église romaine et de l'échange des lettres ecclésiastiques. Donc c'est le décret d'excommunication de saint Athanase. Je crois que Mgr Lefebvre est donc en bonne compagnie dans cet ouvrage intéressant. Il n'est pas le seul à avoir été excommunié pour des raisons qui peut-être seront un jour revues, révisées par l'Église. Donc c'est une question, bien sûr, dont on parle depuis longtemps et qui, de temps en temps, bien remonte un peu à la surface et depuis quelque temps, effectivement, quelques déclarations de cardinaux, de prélats ou bien des études faites par des prêtres qui ne sont pas des nôtres, qui ne sont pas traditionalistes, notamment cet abbé Murray qui a fait une thèse à Rome. Donc on fait un petit peu ressurgir cette question du sacre, des sacres de 1988. Et donc je pense qu'il n'est pas mauvais, puisque malgré tout, le temps passant, nous risquons peut-être d'oublier ce qui s'est passé, quelles ont été les raisons. Et donc j'ai pensé qu'il n'était pas mauvais peut-être de nous souvenir un petit peu des circonstances qui ont amené Mgr Lefebvre à cette décision grave, bien sûr, gravissime même, et que moi je qualifierais même d'héroïque, de sacrer donc quatre évêques. Ces sacres ne sont pas à considérer comme un événement accidentel dans la vie de Mgr Lefebvre, ce n'est pas un coup de mauvaise humeur ou de je ne sais quoi, absolument pas. Mais je crois qu'il faut les considérer dans la continuité, comme sans doute l'acte majeur et l'acte peut-être décisif, ultime, eh bien de cette croisade qu'il a inaugurée avec la bénédiction de l'Église, ne l'oublions pas, nous le reverrons, le 1er novembre 1970, croisade qu'il a donc inaugurée au cœur de l'Église, avec la bénédiction de Rome, pour la continuité du sacerdoce et de la messe catholique. Et donc c'est ce qu'il a fait en 1970, et bien qui, au terme de toute une épopée, et bien s'est conclu par cette décision donc de consacrer, de donner à l'Église donc des évêques. Des évêques, pourquoi faire ? Des évêques non pas pour remplacer les autres évêques, la question n'est pas là, la question n'est pas de remplacer, de faire une autre église, mais des évêques simplement pour continuer la prédication de la foi catholique. La foi catholique, disons, traditionnelle, si l'on veut, prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, le prêcher au monde entier, prêcher notre Seigneur Jésus-Christ crucifié, prêcher la croix, prêcher le saint sacrifice de la messe, prêcher la nécessité de la grâce, la nécessité de Jésus-Christ pour être sauvé, enfin bon, prêcher la doctrine, j'allais dire banale, mais pas tout à fait banale, mais enfin, la bonne, la sainte, la saine doctrine de l'Église catholique. Et puis des évêques, bien sûr, non seulement pour prêcher, mais encore pour donner à l'Église des prêtres capables également bien de faire la même prédication. Des prêtres bien, capables de prêcher également notre Seigneur Jésus-Christ, et des prêtres pour célébrer le saint sacrifice de la messe en tant que sacrifice propitiatoire pour le pardon des péchés de toute l'humanité. Donc je crois qu'il faut considérer cet acte de 88 eh bien, comme l'aboutissement de tout un combat, donc inauguré en 1970, mais qui a connu bien des difficultés, bien des malheurs même, et qui l'a contraint à cet acte héroïque, donc, disais-je. Alors, si nous voulons comprendre, et nous allons faire donc, bien sûr, un petit retour en arrière, il faut faire un petit peu l'historique de cet événement, mais il faut revenir au Concile. Et les sacres épiscopaux sont à considérer dans le même esprit qui a conduit Monseigneur pendant le Concile à mener déjà un certain combat. Car le Concile est apparu à Monseigneur Lefebvre et à ceux qui l'ont vécu avec lui, tous, pour ou contre, ce Concile est apparu comme, malgré tout, une certaine rupture, un changement, une modification, appelez ça comme vous voudrez, mais que l'on peut qualifier quand même, je crois, malgré tout, d'une certaine rupture avec la façon de parler, de prêcher, de penser, d'agir de l'Église hantée, conciliaire. Et cette rupture, eh bien, nous pouvons déjà considérer qu'elle a été elle-même, qu'elle a été avouée, et même proclamée, on peut dire, comme presque un titre de gloire, comme une victoire, eh bien, par ceux qui l'ont provoquée, par ceux qui l'ont menée, cette rupture, et notamment au premier chef, le cardinal Congar. Bon, père Congar, qui fut un des experts du Concile, après avoir été condamné sous Pie XII, avec d'autres, comme le père de Lubac et d'autres, vous voyez, tous ces théologiens qui avaient été mis dans l'ombre par Pie XII et qui ensuite ont été faits cardinaux après le changement de pontife. Et donc le père Congar ne s'est pas privé justement bien de chanter victoire. Alors de multiples déclarations, voici ce qu'il disait, quelques citations, cette accumulation de citations elle-même est déjà assez confondante au sujet du Concile. Le père Congar, donc, on est passé de la contre-réforme à l'œcuménisme. Bon, encore ça peut aller. Mais à propos de la collégialité, il déclarait « L'Église a fait pacifiquement sa révolution d'octobre ». Ailleurs, il parlera du Concile comme étant 89 dans l'Église. C'est quand même assez significatif. À propos de l'Église, il disait « Lumen Gentium » a abandonné la thèse que l'Église catholique serait Église de façon exclusive. Donc, oui, l'Église a abandonné une thèse, qui était pourtant essentielle autrefois, sur la nécessité, l'unicité de l'Église du Christ. Il n'y a qu'une Église catholique, il n'y en a pas deux, et la nécessité de cette Église pour être sauvée. Donc, elle a abandonné la thèse que l'Église catholique serait Église de façon exclusive, et que les autres chrétiens ne pourraient être appelés membres du corps du Christ, mais seulement dits ordonnés à ce corps. Bon. Au sujet de la liberté religieuse, que disait-il ? On ne peut nier que la déclaration sur la liberté religieuse ne dise matériellement autre chose que le syllabus de 1864, et même à peu près le contraire. Père Congar. Ou encore, il ajoutait au sujet de la liberté religieuse, c'est dans le livre d'Éric Vatré, à la droite du Père, où il confesse cela. « J'ai collaboré au dernier paragraphe de la Déclaration sur la liberté religieuse. Il s'agissait de montrer que le thème de la liberté religieuse apparaissait déjà dans l'Écriture. Or, il n'y est pas. » Père Congar avoue donc qu'on n'a pas trouvé dans les Saintes Écritures un fondement à la thèse sur la liberté religieuse définie par le Concile. À propos du Concile, en général, que disait-il ? Il est clair que le décret sur l'œcuménisme dit sur plusieurs points autre chose que l'encyclique de Pie XI, Mortalium Animos. L'Église de Vatican II, par la déclaration sur la liberté religieuse, par sa constitution pastorale, Gaudium et Spes, sur l'Église dans le monde de ce temps, s'est franchement située dans le monde pluraliste d'aujourd'hui, et sans renier ce qu'il y a eu de grand, a coupé les chaînes qu'il aurait maintenues sur les rives du Moyen-Âge. On ne peut demeurer fixé à un moment de l'histoire. Et donc le père Congar reconnaît qu'effectivement, Vatican II a changé bien des choses dans la pensée, disons, de l'Église. L'abbé Laurentin, qui fut aussi un des des théologiens du Concile, au moins des journalistes, hein, des prêtres qui ont suivi le Concile et qui ont écrit sur lui. Avec ses limites et en dépit de ses imperfections, la déclaration sur la liberté religieuse marque une étape. Elle assure à la fois la rupture de certaines amarres avec un passé révolu et l'insertion réaliste de l'Église et de son témoignage à la seule place possible dans le monde d'aujourd'hui. Donc le monde a changé, donc il faut que l'Église eh bien, change également, ouais, pour s'insérer dans le monde d'aujourd'hui. Bien. Monseigneur Etchegaray, après l'État chrétien, dont la déclaration conciliaire sonne le glas, après l'État athée, qui en est l'exacte et aussi intolérable antithèse, l'État laïque, neutre, passif et inengagé a été certes un progrès. D'autres, la commission mixte catholico-luthérienne. Pensez bien qu'ils ont un avis à donner là-dessus, et effectivement, ils ne s'en sont pas privés. Parmi les idées du Concile Vatican II, où l'on peut voir un accueil des requêtes de Luther, se trouve, par exemple, l'engagement en faveur du droit de la personne à la liberté en matière de religion. Bon, vous me direz, ce sont des luthériens, bon, enfin, qui tirent un peu la couverture à lui, cela peut se comprendre, mais enfin, ce sont des avis intéressants, quand même. Le père Courtney Murray, qui fut un des experts au Concile et celui qui a le plus travaillé, sans doute, sur la déclaration de la liberté religieuse, presque exactement un siècle plus tard, la déclaration sur la liberté religieuse semble affirmer comme doctrine catholique ce que Grégoire XVI considérait comme un délire, une idée folle. Donc il le reconnaît, effectivement. Oui, c'est Hans Kung, bien sûr. Lefebvre, pas question de parler de Monseigneur Lefebvre, bien sûr. Lefebvre a tout à fait le droit de remettre en cause la déclaration conciliaire sur la liberté religieuse parce que, sans donner d'explication, Vatican II a complètement renversé la position de Vatican I. C'est Hans Kuhn qui le reconnaît aussi. Il n'y a plus développement là où c'est le contraire qui est expressément affirmé. Monsieur Prélot, sénateur du Doubs, catholique très libéral, nous avons lutté pendant un siècle et demi pour faire prévaloir nos opinions à l'intérieur de l'Église et nous n'y avons pas réussi. Enfin est venu Vatican II et nous avons triomphé. Désormais, les thèses et les principes du catholicisme libéral sont définitivement acceptés et officiellement par la Sainte Église. Cardinal Suenens, en 69. On pourrait faire une liste impressionnante des thèses enseignées à Rome avant le Concile comme seules valables et qui furent éliminées par les pères conciliaires. Le cardinal de Lubac, lui, parlait de petite révolution. Yves Marsaudon, franc-maçon, parle de la révolution voulue par Jean XXIII. Robert Aron compare le Concile à un germe révolutionnaire et à la nuit du 4 août 1789. Grémion et Levillain affirment quant à eux que Vatican II a été une véritable révolution copernicienne dans l'Église, révolution qui s'est opérée par une ouverture au monde. Oui, ce n'est pas nous qui le disons, là, ce sont, je dirais, ceux qui nous combattent, ceux qui nous condamnent, qui le reconnaissent même. Le cardinal Ratzinger, montons un petit peu quand même, qui est une autorité dans la Sainte Église quand même, dans son ouvrage sur les principes de la théologie catholique, a reconnu, au sujet des Gaudium et Spes, que si l'on cherche un diagnostic global du texte, on pourrait dire qu'il est, en liaison avec les textes sur la liberté religieuse et sur les religions dans le monde, une révision du syllabus de Pie IX, une sorte de contre-syllabus. Ce texte joue le rôle d'un contre-syllabus dans la mesure où il représente une tentative pour une réconciliation officielle de l'Église avec le monde tel qu'il était devenu depuis 1789. Et un peu avant, il avait dit dans un article qui avait précédé la rédaction de cet ouvrage que le problème des années 60, eh bien, c'était d'arriver à récupérer et insérer dans l'Église les thèses libérales nées hors de l'Église après la Révolution. Donc comment arriver à, si vous voulez, faire coïncider ces thèses libérales nées hors de l'Église avec, eh bien, la pensée de l'Église. Oui. Et c'est ce qu'il dira dans un article en 1992, donc plus tard que tout cela. Et nous voulons, nous ne souhaitons pas imposer le catholicisme à l'Occident, mais nous voulons que les valeurs fondamentales du christianisme et les valeurs libérales dominantes dans le monde aujourd'hui puissent se rencontrer et se féconder mutuellement. Bon. Et le pape Jean-Paul II lui-même, dans ce fameux motu proprio, Ecclesia Dei afflicta, eh bien, reconnaît également implicitement et même explicitement, oui, après avoir donc expliqué un peu la faute de Mgr Lefebvre, il attire l'attention des théologiens sur la nécessité peut-être de mieux étudier le Concile pour mieux le comprendre. L'amplitude et la profondeur des enseignements du Concile de Vatican II requièrent un engagement renouvelé pour un approfondissement qui permettra de mettre en lumière la continuité du Concile avec la tradition, spécialement sur des points de doctrine qui, peut-être à cause même de leur nouveauté, n'ont pas encore été bien compris dans certains secteurs de l'Église. Donc tous sont d'accord pour dire, eh bien, qu'il y a eu dans le Concile des nouveautés, des choses, eh bien, que l'on n'avait encore jamais entendues dans la Sainte Église de Dieu, des thèses, des pensées, des considérations, eh bien, qui n'avaient jamais encore été admises, au moins, dans l'Église. Et vous savez qu'en 1985, Monseigneur exposera, on verra à Rome ce qu'on appelle les dubia sur la liberté religieuse, et dans la réponse, le théologien qui répondra au nom de Rome, eh bien, parle précisément d'une indiscutable nouveauté. L'indiscutable nouveauté que représentait ce document, mais avec, bien sûr, la volonté de montrer qu'il était en continuité et en harmonie avec le magistère antérieur. Bon, ça, c'est une autre question. Donc, c'est la question de cette nouveauté. Vous voyez, donc, tout le monde est, et c'est le reproche, bien sûr, que Mgr Lefebvre lui a fait, déjà pendant le Concile. Pour cela, si vous voulez vous en convaincre, eh bien, lisez et relisez cet ouvrage, hein, qui est fondamental, qui vous explique tout le combat de Monseigneur, 1976. Cet ouvrage, il a 20 ans, hein. Mais tout est là. Je ne dis pas que les sacres y sont déjà, c'est pas vrai, mais la raison, disons, le motif qui vont conduire Monseigneur au sacre, vous l'avez là-dedans, dans le combat qu'il a mené au Concile. Parce que toutes ces nouveautés que Monseigneur Lefebvre a entendues, que ce soit dans les commissions antérieures, puisqu'il était membre de la commission centrale du Concile, donc il a travaillé à l'élaboration des schémas, etc. Et il a raconté, je ne sais combien de fois, effrayé justement par toutes ces thèses nouvelles qui étaient débattues et contre lesquelles, eh bien, on avait du mal à se défendre. Hein. Et ce qui effrayait Monseigneur, mais précisément, c'était surtout cet esprit de nouveauté. Cet esprit de nouveauté qui n'a malheureusement, il faut bien le reconnaître, rien à voir avec l'esprit catholique. En soi. Bon. Il y a des textes quand même de l'Église, bon, antérieurs au Concile Vatican II, 19e et début 20e siècle, qui précisément marquent un petit peu, je dirais, la crainte, la hantise, si l'on peut dire, justement, de l'Église, des papes, des théologiens, enfin de tous ceux qui étaient héritiers de la pensée, de la doctrine catholique, leur crainte, justement, de cet esprit de nouveauté. Il faut se méfier de l'esprit de nouveauté, ouais, cette soif de nouveau. On voudrait que ça change, on n'aime pas les vieilles formules, on n'aime pas les vieilles recettes. On voudrait trouver des nouvelles recettes. On est certain qu'on va faire mieux que nos anciens. Bon, on verra. Le Concile Vatican I, bien précisément, nous a rappelé dans le décret Pastor Eternus, Constitution Pastor Eternus sur l'Église, sur le Pape. Eh bien, c'est un passage bien connu, mais qu'il n'est pas mauvais de rappeler que le Saint-Esprit n'a pas été promis au successeur de Pierre pour qu'il fasse connaître sous sa révélation une nouvelle doctrine. Ce n'est pas pour ça que le Saint-Esprit est donné à l'Église et au souverain pontife, mais pour qu'avec son assistance, il garde saintement et expose fidèlement la révélation transmise par les apôtres, c'est-à-dire le dépôt de la foi. Et le pape Saint Pédis, bien sûr, c'est lui surtout que nous allons citer maintenant pendant quelques instants, précisément, a passé pratiquement tout son pontificat à lutter contre cet esprit de nouveauté. Déjà dans la première encyclique du 4 octobre 1903, et sous Primi Apostolatus, dans laquelle il définissait le programme de son pontificat, il, notamment quand il parlait du clergé, des jeunes prêtres, la nécessité de les former à la sainteté, et il poussait ce cri d'alarme un petit peu au sujet du clergé, que les membres du clergé ne se laissent point surprendre aux manœuvres insidieuses d'une certaine science nouvelle qui se pare du masque de la vérité et où l'on ne respire pas le parfum de Jésus-Christ. Vous voyez, cette science nouvelle. Et bien sûr, c'est l'encyclique Pascendi, surtout. Vous savez, là, il y aurait toute une conférence à faire là-dessus. Relisez aujourd'hui Pascendi et vous aurez froid dans le dos. Dès le début de l'encyclique Pascendi du 8 septembre 1907, vous savez que c'est cette encyclique qui condamne donc le modernisme après le décret Lamentabili. Le pape Saint Pédis également rappelle un petit peu ce qu'a fait le Pie IX au cours de Vatican I, quel est le rôle des successeurs de Pierre. À la mission qui nous a été confiée d'en haut de paître le troupeau du Seigneur, Jésus-Christ a assigné comme premier devoir de garder avec un soin jaloux le dépôt traditionnel de la foi à l'encontre des profanes nouveautés de langage, comme des contradictions de la fausse science. Vous voyez, déjà. Donc, garder la sainte doctrine contre les profanes nouveautés de langage. Et il cite Saint Paul, il n'a jamais manqué, suscité par l'ennemi du genre humain, d'hommes au langage pervers, diseurs de nouveautés et séducteurs. Oui, la séduction de la nouveauté. C'est vrai que c'est séduisant, la nouveauté. Et oui. Et il faut s'en méfier, justement. C'est très dangereux, cela, très dangereux. Il cite un peu plus loin Grégoire XVI, le pape Grégoire XVI, qui parle de ces inventeurs d'un système où on les voit sous l'empire d'un amour aveugle et effréné de nouveauté, ne se préoccuper aucunement de trouver un point d'appui solide à la vérité, etc., etc. Et quand Saint Pédis examine les causes du modernisme, donc il expose d'abord en quoi consiste un petit peu la doctrine des modernistes, et ensuite il établit les causes. Et quelle est la première cause qu'il met? Eh bien, c'est la curiosité. Curiosité qui est cet esprit de nouveauté, ouais, cette séduction de la nouveauté. Ouais, curiosité, aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, ce qui se dit. Certainement, les protestants ont des idées qui sont beaucoup plus intéressantes que les catholiques. Alors, on va chercher un petit peu chez les hétérodoxes, là, des choses comme ça, un petit peu nouvelles, un petit peu étranges. Ouais. Et il cite là, donc, la curiosité. Les causes éloignées, il les ramène à deux. La curiosité et l'orgueil. La curiosité, et il cite donc la Grégoire XVI qui écrivait « C'est un spectacle lamentable que de voir jusqu'où vont les divagations de l'humaine raison dès que l'on cède à l'esprit de nouveauté. Que contrairement à l'avertissement de l'apôtre, l'on prétend à savoir plus qu'il ne faut savoir et que, se fiant trop à soi-même, l'on pense pouvoir chercher la vérité hors de l'Église, en qui elle se trouve sans l'ombre de la plus légère erreur. » Non, en qui elle se trouve sans l'ombre la plus légère d'erreur. Vous voyez ? Aller chercher en dehors de l'Église, eh bien, des choses qui pourraient peut-être enrichir l'Église. Donc, aller voir un petit peu en dehors, eh bien, quelques valeurs libérales qui pourraient enrichir l'Église. Pourquoi pas ? C'est l'esprit de nouveauté. Ensuite, il parle de l'orgueil, mais enfin, passons. Saint Pédis continue. C'est un fait qu'avec l'amour des nouveautés va toujours de pair la haine de la méthode scolastique. Et ça, c'était une des notes justement du Concile Vatican II et de la théologie actuelle. Vous voyez, ce mépris de la théologie scolastique des anciens de Saint Thomas d'Aquin. On en parle parfois, on le cite de temps à autre, mais ce n'est pas l'auteur, ce n'est pas la référence première. Alors que Saint Pédis, justement, et tous les papes on dit jusqu'à Pie XII, eh bien, que s'éloigner de la pensée de saint Thomas d'Aquin, eh bien, c'était justement s'engager sur le chemin de l'erreur. Attention, saint Thomas d'Aquin n'est pas l'Église, c'est bien évident, il n'est pas Dieu, il n'est pas... Mais sa pensée a été reconnue comme l'Église, par l'Église comme étant bien la plus sûre, la plus conforme à la doctrine, à la révélation et à la foi. Et donc, s'en écarter, eh bien, c'est se mettre en péril. Citation encore, saint Pie X cite le concile de Nicée, qui condamne ceux qui osent, sur les traces des hérétiques impies, mépriser les traditions ecclésiastiques, inventer quelques nouveautés, ou chercher avec malice ou avec astuce à renverser quoi que ce soit des légitimes traditions de l'Église catholique. Oui, toujours pareil. Et un peu plus loin, saint Pie X, justement, cette phrase qui fait frémir les prêtres, « Loin, bien loin du sacerdoce, l'esprit de nouveauté. » Se méfier du prêtre qui a l'esprit de nouveauté. Attention. Le prêtre est d'abord l'homme de la tradition. Il est là, bien, pour répéter ce qu'on lui a appris. Répéter à sa façon, selon son génie propre, c'est bien évident. Ça n'interdit pas de réfléchir. Nous ne sommes pas des perroquets, c'est bien clair. Mais nous ne sommes pas là pour inventer des choses nouvelles. Attention. Eh oui. Oui, donc cette condamnation qui est quasi universelle, justement, de toute nouveauté, esprit de nouveauté, recherche de nouveauté. Oui. Et si vous lisez Pachendi, hein, vous serez confondu. Hein, ça nous rappelle tellement de choses que nous entendons aujourd'hui. Voici, ça c'est pour votre édification, si vous voulez simplement. Oui. Si une religion vit, c'est donc la doctrine des modernistes. Si une religion vit, c'est qu'elle est vraie. Il faut être vivant pour être vrai. Oui. Donc il faut que la tradition soit vivante, il faut que tout soit vivant. Si une religion vit, c'est qu'elle est vraie. Si elle n'était pas vraie, elle ne vivrait pas. C'est imparable comme logique. Oui. D'où l'on conclut, donc, toutes les religions existantes sont donc vraies, puisqu'elles sont vivantes. Oui. Le signe de la vérité, c'est la vie. C'est le principe de l'immanence vitale, oui, et de l'évolution, saint Pie X le dira. Et vivre, c'est bouger, vivre, c'est changer. Oui. Et donc, toutes les religions actuelles, elles sont vivantes, donc elles sont vraies, puisqu'elles vivent. Oui. Si elles ne vivaient pas, si elles n'étaient pas vraies plutôt, elles ne vivraient pas. Or, elles vivent. Bon, c'est... Ou bien encore, un peu plus loin, oui, cette immanence. Je ne veux pas faire trop de rapprochements, mais enfin, je vous les ferai vous-même, parce que... Sinon, on m'accuserait de mauvais esprit. Toutes les consciences chrétiennes furent enveloppées en quelque sorte dans la conscience du Christ. Mais toutes les consciences chrétiennes sont enveloppées en quelque sorte dans la conscience du Christ. Une sorte d'identification, donc, entre la conscience du Christ et la conscience de l'homme. Bon, je n'en dis pas plus. Bon, abrégeons, passons. Oui, le point capital de leur système, c'est l'évolution. Oui, l'évolution, il faut que cela change. Et donc, il est normal que le Concile Vatican II, précisément, eh bien, ait introduit des nouveautés dans l'Église. C'est normal, c'est le signe, précisément, de sa vérité. C'est ça, la vie. La vie, c'est le mouvement, c'est l'évolution. Oui. Ce qui ne change pas n'est pas vivant, c'est mort. Oui. Alors, nous sommes morts. Oui. Nous sommes des vieux, des fossiles. Eh oui, bon, enfin. Et alors, le passage peut-être le plus impressionnant, c'est quand saint Pie X examine le moderniste rénovateur ou réformateur. Et là, vous verrez ben, que malheureusement, on peut dire que saint Pie X a été prophète. Ouais. Réforme de la philosophie, réforme de la théologie. Quant à l'histoire, qu'elle ne soit plus écrite ni enseignée que selon leurs méthodes et leurs principes modernes, que les dogmes et la notion de leur évolution soient harmonisés avec la science et l'histoire, que dans les catéchismes, réforme des catéchismes, le culte, que l'on diminue ceci et cela, que le gouvernement ecclésiastique soit réformé dans toutes ses branches, etc. Réforme des congrégations romaines, que le pouvoir ecclésiastique change de ligne de conduite, etc. Le clergé est même, et la dernière réforme qui n'a pas encore été faite, mais dont malheureusement nous semblant nous rapprocher. Il en est même qui, faisant écho à leur maître protestant, désire la suppression du célibat ecclésiastique. Et on peut dire que malheureusement, bien, ce programme, nous l'avons vu quasi réalisé, quasi mot à mot. Ouais. Alors voilà un petit peu la situation devant laquelle, eh bien, s'est trouvé Mgr Lefebvre au cours du concile, lui et puis d'autres prélats, hein, car il n'était pas seul, bien sûr, à s'étonner et à résister et à se battre, donc, au cours du concile. Ouais. Donc vous avez, je vous le disais tout à l'heure, hein, toutes les interventions de Mgr au concile sont là. Alors ceux qui pourraient croire, eh bien, que Mgr a attendu je ne sais combien de temps pour se réveiller, pas du tout. Pendant le concile, il a mené le bon combat, mais, bon, voilà. Et ce sont les mêmes, pratiquement les mêmes accusations, ou les mêmes défenses, appelez ça comme vous voudrez, peu importe, les mêmes démonstrations, bien que Mgr ensuite a représenté à Rome plus tard, c'est donc en fin 1985, donc, ce qu'on appelait les Dubia, où il a présenté à Rome, donc, un petit dossier, et voilà un petit peu nos doutes, les Dubia. Ce sont des doutes, là, nos questions un petit peu sur la question de la liberté religieuse, à laquelle Rome a répondu quand même, mais une réponse qui n'a pas donné satisfaction à Mgr et à laquelle il a répondu, donc réponse à la réponse, mais il n'a pas reçu de réponse à la réponse à sa réponse. Bon, voilà. Donc, depuis, ben, nous en sommes restés là. Oui. Donc, je crois qu'il était important quand même de revenir un petit peu à la genèse un peu de cette opposition de Mgr, hein, pour bien comprendre que qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans son esprit, on peut dire, et d'autres, il en a témoigné lui-même, d'autres que lui sont revenus du concile scandalisés, des prélats sont rentrés scandalisés. Mgr Adam, l'évêque de Sion, n'est allé qu'à la première session du concile. L'évêque de Sion, donc le diocèse dans lequel ensuite Mgr ira installer son séminaire à Écône, Mgr Adam est allé à la première session, il est revenu en disant, mais je ne sais pas très bien les termes, mais enfin disant que ça ne tenait pas debout et qu'il ne remettrait plus les pieds dans ce concile. Effectivement, il n'y est pas retourné. Et combien d'autres prélats, malheureusement, eh bien, qui ont assisté au concile et sont rentrés, Mgr donnait quelques noms, ils sont rentrés chez eux et sont morts quelques mois après, morts de chagrin, tués par le concile, devant ce bouleversement, justement, ben, de tout ce qui avait été leur vie, de tout ce qui avait fait leur bonheur, leur apostolat, leur ministère sacerdotal, épiscopal, qui a été renversé comme cela en quelques années par une poignée de trublions qui avaient été, donc, rappelons-nous, quand même mis à l'écart sous Pie XII, et qui avait été réintroduit comme expert au concile par Jean XXIII. Et il faut bien réaliser, vous voyez, que ce combat de Mgr, nous le voyons bien déjà au concile, hein, le combat de Mgr est d'abord un combat doctrinal. Ce n'est pas un combat liturgique. Hein. Mgr n'a pas commencé à se battre contre la liturgie, puisqu'au contraire, ça peut paraître étonnant, mais au concile, il a signé, il a accepté le décret sur la réforme liturgique, hein. Bon, qui n'était pas encore la nouvelle messe, attention, mais un décret donc sur la liturgie que Mgr a accepté, donc il était tout à fait favorable, si l'on veut, en tout cas il acceptait, il admettait quelques modifications dans la liturgie, quelques réformes, il n'était pas opposé à cela, il avait signé donc le décret sur la liturgie, mais il a refusé les décrets doctrinaux, notamment les deux décrets les plus nouveaux, si l'on peut dire, Gaudium et Spes et Dignitatis Humanae, sur la liberté religieuse. Cela, il les a refusés. Quoi qu'on en ait dit, quoi qu'en ait prétendu certains, il ne les a pas signés. Ces décrets n'ont pas eu son placet. Il a refusé de le donner. Alors qu'il avait donné son placet au décret sur la liturgie. Et le combat de Mgr Lefebvre n'est devenu, ne s'est porté sur la liturgie qu'après 1969. Donc le concile s'est achevé en 1965, combat doctrinal au concile, bon, et le combat de Mgr s'est porté sur la liturgie après la doctrine, donc après 1969, après l'élaboration de la nouvelle messe, le nouveau rite, ce qu'on appelle la messe de Paul VI, et là il s'est battu sur ce rite de Paul VI parce qu'il est porteur, véhicule, il est l'expression, et bien précisément de cette nouvelle théologie du concile. Mais le combat de Mgr ne s'est porté sur la liturgie qu'en raison de la doctrine sous-jacente à la nouvelle messe, au rite de Paul VI. Donc nous refusons, il a refusé, et nous refusons ce rite de Paul VI parce qu'il est tout imprégné, il imprègne les esprits, justement, eh bien, de ces nouveautés introduites au Concile par ces décrets que Monseigneur avait refusés. Et sur quoi se concentre, eh bien, notre réclamation, notre résistance, hein? Eh bien, précisément, essentiellement, sur cette nouvelle ecclésiologie. Bon, je ne ferai pas ce soir une étude doctrinale des thèses conciliaires, ce serait beaucoup trop long, ça serait ça l'objet d'une autre conférence. Je vous renvoie à toutes les études qui ont été faites là-dessus. Hein. Mais cette nouvelle ecclésiologie, nouvelle conception de la nature de l'Église et du rôle de l'Église. Ouais. On n'a plus aujourd'hui, dans l'Église qui s'appelle elle-même conciliaire, on n'a plus la même conception de l'Église et de son rôle au milieu des hommes, eh bien, que celle qu'on avait avant le Concile. Ouais. Alors, celle-ci se résume dans tout un tas de formules, notamment ce subsistit, ouais, savoir que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Ouais. On n'affirme plus l'identité entre l'Église du Christ et l'Église catholique. Ouais. C'est autre chose de dire qu'il y a identité, que l'Église du Christ est l'Église catholique, et dire que l'Église du Christ subsiste dans l'Église catholique. Sous-entendu, c'est une façon pour elle de se réaliser. C'est une façon de subsister, mais on peut très bien la retrouver ailleurs également. Oui. Donc, c'est un tout petit mot, peut-être. Ça paraît peut-être un peu du pinaillage, mais en théologie, les mots ont leur sens. Il faut être précis, sinon, on fait n'importe quoi. Et à ce moment-là, la pensée se dilue, la foi se dilue, et tout se dissout. Hein. Donc, c'est ce refus de cette nouvelle ecclésiologie qui entraîne bien sûr la conception actuelle de l'œcuménisme et de la liberté religieuse, tout se tient. Nouvelle Église, nouvelle conception de l'Église, eh bien nouvelle conception de ses rapports avec les autres religions, etc. C'est tout à fait, tout est parfaitement, parfaitement logique. Et tout cela a été ensuite institutionnalisé, il a reçu force de loi, avec deux monuments, si l'on peut dire, justement. D'abord, le nouveau code de droit canon, encore quelque chose de nouveau, bon, nouveau code de droit canon de 1983. C'est un peu le code Napoléon, si l'on peut dire, eh bien, de l'Église conciliaire, voilà. On met en place, on donne force de loi à la pensée du concile, à l'ecclésiologie conciliaire, et puis le nouveau catéchisme de 1991, bon, que Monseigneur n'a pas vu, mais enfin, que l'on sentait venir quand même, ouais, ce nouveau catéchisme. Et finalement, eh bien, nous avons assisté, après le Concile, à la mise en place, eh bien, d'une, si l'on peut dire, d'une nouvelle Église, enfin, au sein de l'Église catholique, eh bien, de ce que eux-mêmes, c'est Monseigneur Benelli qui a appelé cela ainsi, de ce qu'on appelle l'Église conciliaire, ouais. L'Église conciliaire qui n'est pas identique à l'Église catholique, certainement pas, mais qui est une sorte de corps étranger, si l'on peut dire, au sein de l'Église catholique, mise en place donc d'une petite société au sein de l'Église qui s'appelle elle-même l'Église conciliaire, dont les limites et les détours sont difficiles à bien préciser, à bien définir, qui en est membre, qui n'en est pas membre, ça, nul ne le saura, enfin, sauf peut-être ceux qui en font partie, et qui se définit plutôt par l'adhésion à ces thèses conciliaires. Ouais, ce qui fait l'Église conciliaire, eh bien, c'est l'adhésion, on dirait l'adhésion consciente, volontaire, à ces thèses conciliaires. Ouais. Et notre résistance à nous, la résistance de Mgr Lefebvre et la nôtre actuelle encore, eh bien, elle est beaucoup plus précisément, on dirait, à cette Église conciliaire, à cette pensée conciliaire. Ce n'est pas au pape en tant que tel, oui, mais c'est à cette Église conciliaire que nous refusons notre adhésion, parce que elle a une pensée qui est étrangère à la pensée de l'Église catholique. Oui. Et nous avons vu se mettre en place, bon, les anciens s'en souviennent aussi bien que moi, petit à petit, les choses se sont faites progressivement, tout s'est renouvelé dans l'Église. Aujourd'hui, tout est nouveau, il n'y a plus rien, d'intact, si l'on peut dire. Actuellement, tout ce qui existait avant le Concile a été remplacé par quelque chose de nouveau. Donc, un nouveau ordo missae, d'abord, donc un nouveau rite de la messe, un nouveau rituel des sacrements, une nouvelle Bible même, la Tobe, la Bible, traduction œcuménique de la Bible, c'est une nouvelle Bible. Ça n'est plus la Bible, ça n'est plus la Vulgate, c'est autre chose. Ouais. Bon, nouvelle Bible, un nouveau catéchisme, un nouveau droit canon, nouvelle forme même de piété, toutes les dévotions traditionnelles, tout cela, bien sûr, a été balancé, ou à peu près. Nouvelle traduction, même, etc. Ouais. Enfin, tout est nouveau. Ouais. Donc, ce qu'il faut réformer, et notre combat justement ne se limite pas à un combat liturgique. Ce qu'il faut réformer, ce n'est pas essentiellement la liturgie. Il faut, bien sûr, sans doute réformer ou revenir à une sainte liturgie, bien sûr. Mais c'est surtout cette pensée conciliaire hein, qu'exprime et que véhicule cette nouvelle liturgie. Alors c'est à cela, bien que Mgr Lefebvre s'est attelé. Bon, vous savez qu'après le concile, donc bien fois après la promulgation des décrets conciliaires, et bien ma foi, il s'est non pas retiré tout de suite, mais après quelques années, il s'est retiré, puis il a attendu un peu là, voir un petit peu ce que la Providence allait lui dicter, jusqu'à ce que des séminaristes en mal justement de bonne et de sainte formation viennent le chercher, le sortir de sa petite retraite, lui dire Monseigneur, fais quelque chose pour nous, parce que nous, ça va plus au séminaire français, ceci, on hisse le drapeau rouge, tout ça, bon, on n'est pas venu ici pour ça. Et c'est donc à partir de 1970 qu'a commencé ce que l'on peut appeler l'épopée de Monseigneur et de la Fraternité, après ce combat, donc, pendant le Concile, eh bien, cette deuxième phase de ce combat qui va se dérouler à partir de l'année 1970. Je pense qu'il n'est pas mauvais de nous rappeler, de nous souvenir un peu de ces choses-là. Petit historique un peu de cette fondation de la Fraternité, de ses premières années. Il faut nous rappeler que Monseigneur d'abord, en 1969, donc, s'était installé à Fribourg. Il avait recherché, avec les séminaristes qui étaient venus le chercher, une maison pour s'installer à Fribourg, où il avait été encouragé par le Père Philippe, le Père Marie-Dominique Philippe, bon, que l'on connaît un petit peu quand même, qui au début, donc, l'avait encouragé, effectivement, M. Bernard Faye, et Monseigneur Charrière, l'évêque de Lausanne, l'avait encouragé. Au début, le père Gérard Delaurier, M. Housset, Jean Housset aussi, était venu visiter Monseigneur et l'avait encouragé dans sa fondation. Enfin, oui, donc des encouragements de personnes tout à fait honorables. Don Roy, le père abbé de Fongombeau également, l'avait encouragé dans sa décision. Et puis, bon, vous savez donc que c'est le 1er novembre 1970 que la Fraternité a été officiellement érigée dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Décret d'érection. Donc, c'est la bénédiction de l'Église, c'est l'Église qui elle-même donne naissance à la Fraternité sacerdotale Saint-Pédis, fondée par Mgr Lefebvre pour le sacerdoce, pour la formation du prêtre, la formation d'un clergé, bien, catholique, tout simplement. Oui. Et cette fondation, voici c'est le passage du décret, oui. Et c'est ce qui est très intéressant, c'est que ce décret, cette direction, ben, se réfère à Vatican II. Ouais. Étant donné les encouragements exprimés par le Concile Vatican II dans le décret Optatum Totius concernant les séminaires internationaux, étant donné la nécessité urgente de la formation de prêtres zélés et généreux, conformément aux directives du décret suscité, etc., constatant que les statuts de la fraternité sacerdotale correspondent bien à ces buts, Tout va bien, c'est parfait, allez-y, courage. Eh bien, nous approuvons et confirmons les statuts 6 juin de la fraternité pour une période de 6 ans ad experimentum, période qui pourrait être suivie d'une autre semblable, etc. Oui. Oui, donc, la fraternité est érigée pour une période de 6 ans ad experimentum. Ça, c'est ad experimentum pour les statuts. C'est-à-dire qu'au bout de 6 années, les statuts pouvaient être éventuellement corrigés, modifiés, mais ça ne veut pas dire qu'au bout de 6 ans, eh bien, on allait supprimer la fraternité. C'était pas du tout là. C'est pas la pratique même romaine, hein. Bon. Donc voilà, très bien. 1er novembre 70, formidable. Monseigneur encouragé, béni par l'Église, qui fonde donc sa fraternité. Quelque temps plus tard, en 71, 27 février 71, une lettre du cardinal Wright, la congrégation pour le du clergé, qui l'encourage, donc ce qu'on appelle une lettre de louange et d'encouragement. Donc voici donc Monseigneur Lefebvre, la fraternité, érigée dans le diocèse de Lausanne, encouragée, bénie, louée par une congrégation romaine. Donc tout va bien. Monseigneur Adam, évêque diocésain, vient rendre visite au séminaire. Il viendra quelques autres fois encore. Quelques encouragements encore, vous voyez, par exemple, le père Philippe encore, et même le cardinal Journet. Cardinal Journet qui était catégorique, oui, et qui encourageait justement Monseigneur, eh bien, à donner lui-même les cours, enfin, à faire donner lui-même les cours dans son séminaire, ne plus envoyer ses séminaristes à l'université de Fribourg parce que ça ne marchait pas très bien. Monseigneur Mamy, même au début, était relativement favorable, etc. Et Monseigneur Adam aussi, bien sûr, tout cela va bien. Quelques interventions. Monseigneur, par exemple, en 71, va visiter le cardinal Garonne, qui finit l'entretien en lui disant « Je prie pour vos séminaristes » et ajoute « Je suis heureux que vous ayez des vocations. » Cardinal Garonne. Bon, le cardinal Wright dit encore « Monseigneur, l'œuvre que vous faites est la plus importante dans l'Église actuellement. » Préfet de la congrégation du clergé. Hein. « L'œuvre que vous faites actuellement, l'œuvre que vous faites est la plus importante dans l'Église actuellement. » 72, l'évêque d'Aoste accepte même une installation chez lui qui finalement ne pourra pas se faire, mais il dira à Monseigneur, « Vous me faites beaucoup d'honneur, Monseigneur, de venir dans mon diocèse. » Bon, tout heureux, je demande d'accueillir. Bon, très bien. Monseigneur Adam vient faire des visites, le père Don Roy également. Oui, donc vraiment, tout allait bien, tout baigné dans l'huile, c'est comme on dit un peu familièrement. Ouais. Aucun problème, ouais. Monseigneur avait donc combattu un peu pendant le concile, et puis finalement, bien, l'Église l'autorise à fonder un séminaire, eh bien, pour continuer la formation des prêtres, telle qu'elle l'avait toujours fait, et même telle que le concile, dans son décret sur la formation du clergé, eh bien, le demandait. Et puis voici que tout d'un coup, c'est le 30 octobre 1972, au cours de la réunion l'Assemblée épiscopale du clergé de l'épiscopat français, eh bien, on parle de séminaire sauvage. Là, c'est le coup de foudre. Et c'est finalement la déclaration de guerre. Hein. C'est Monseigneur Marcus qui a été l'auteur de cette trouvaille, si l'on peut dire, de séminaire sauvage. Alors que le séminaire n'avait rien de sauvage. Il faisait tout au grand jour, avec les approbations de l'Église, en quoi ce séminaire était-il sauvage? Mais la personne et le travail de Monseigneur Lefebvre étaient insupportables aux évêques français. Ça, c'est une vieille histoire qui remonte à beaucoup plus loin que cela. Mais enfin, à partir de là, bien le travail de sape va commencer, la campagne de presse va commencer. Monseigneur Adam commence à s'inquiéter un peu. Attention, oui, commence un petit peu à lâcher du lest, et puis pourtant, il y a un mélange un petit peu des deux. Le cardinal Danielou, par exemple, en décembre 72, déclare dans une conférence donnée à la Cato, à Paris, « Moi, si j'avais à choisir aujourd'hui un séminaire, je viendrais à Écône. » Cardinal Danielou. Bon, alors et d'un côté, on est sauvage, et d'un autre côté, le cardinal dit, « Ben, moi, j'irai à Écône. » Bon. Enfin, ouais. Tout ça pour expliquer un petit peu le flou, si vous voulez, un petit peu tout cette guerre sournoise qui a été faite à la fraternité. Et en janvier 73, eh bien voilà Monseigneur Adam qui précisément commence eh bien à lâcher un petit peu et à faire savoir eh bien qu'on n'a plus le droit de célébrer la messe dite de Saint Pie V. Et dans le même temps. C'est la date du 3 septembre 1973. Monseigneur Mamy, c'est étrange là, comme la Providence, on peut dire. Enfin bon, voilà. Monseigneur Mamy, qui va dans quelques temps signer la condamnation, décret de suppression de la fraternité, donc 3 septembre 1973, dans la fête de Saint-Pédis, donc, il signe une autorisation de créer à Rome une maison de formation. C'est la maison d'Albano. Notre maison à Albano, actuellement près de Rome, a été ouverte avec l'approbation, l'autorisation, eh bien, de Monseigneur Mamie, qui avait succédé à Monseigneur Charrière sur le siège de... épiscopale de Lausanne. Donc, maison de formation ouverte avec l'autorisation de Monseigneur Mamie. Quelques visites encore, le Père Calmel, bien sûr, vient à Rome, pas de problème. Le 22 septembre 1974, fête de Saint-Maurice, patron du Valais, quelques séminaristes vont visiter l'abbaye de Saint-Maurice, qui n'est pas très loin d'Écône, et là, ils rencontrent Monseigneur Adam, bon, qui était là aussi pour les cérémonies, les festivités. Très bien, ils se rencontrent, et voici ce que leur dit Monseigneur Adam. Vous êtes, n'oubliez pas que Monseigneur Adam avait autorisé, avait donné son placet au départ, hein, à l'ouverture. Bon, très bien. Et donc, il leur dit, vous êtes d'école? Alors, nous ne sommes pas de la même religion. Bon. Et c'est en novembre 1974, oui, eh bien, que Rome envoie, justement, devant un petit peu toutes ces difficultés, les séminaires sauvages, etc., eh bien, envoie pour essayer de faire le point de la situation deux visiteurs apostoliques, donc, qui viennent visiter Rome entre le 11 et le 13 novembre, qui viennent, qui font le tour un peu du séminaire, qui interrogent les séminaristes et qui feront donc un rapport qui sera mitigé. Donc, visiteurs apostoliques. Et bon, le combat, la querelle continue malgré tout, rien ne s'arrange malgré tout cela. Et c'est le 21 novembre 1974 que Monseigneur rédige sa déclaration, cette fameuse déclaration que nous avons republiée dans ce petit fascicule, que je crois il est bon de temps en temps de relire un peu, parce qu'elle est, je crois qu'elle nous donne la ligne très, très exacte et peut-être difficile à bien garder, l'équilibre juste, justement, eh bien, de ce que nous acceptons, de ce à quoi nous adhérons et de ce que nous refusons. Donc, cette déclaration qui, au départ, n'était pas destinée à être publiée comme ça, à faire tout un tapage, mais c'est ce bon Père Barbara qui a cru bon, eh bien, de la publier. Et puis, pof, alors, c'est là que l'affaire a fait tout un vacarme, si l'on peut dire, et est allée, bien sûr, jusqu'aux oreilles du Vatican. On le reprochera, et c'est cela qu'on reprochera à Monseigneur, surtout cette déclaration du 21 novembre 1974. Et au sujet de cette déclaration, eh bien, Monseigneur en fera quelques commentaires aux séminaristes. Hein. Et voici ce qu'il leur a dit. Cette déclaration qui peut vous paraître très forte est nécessaire devant un tel désastre des âmes qui se perdent à cause de cette réforme. Présence réelle niée, sacrifice de la messe nié, confession, baptême à l'âge adulte, plus d'extrême onction, couvent déserté, séminaire vide et vendu. Il faut résister à cette vague de néo-protestantisme, ne pas prendre une partie sans laisser l'autre, tout se tient. Cette liturgie nouvelle est inspirée des mêmes principes que le catéchisme nouveau. Ce n'était pas encore le nouveau catéchisme de 91. C'était Pierre Vivante et tout ce qu'on peut imaginer. Hein. Peut-être pas encore, mais enfin, c'était le parcours ou je ne sais pas quoi. Peu importe. Cette liturgie nouvelle est inspirée des mêmes principes que le catéchisme nouveau. Si les principes du catéchisme changent, changent aussi ceux de la liturgie. Et ceux du sacerdoce orientés tout entier à la liturgie et ceux du séminaire où l'on forme les prêtres. Tout est logique. Si l'idée nouvelle nous pénètre par un endroit, elle envahit tout. Éprouvons-nous la présence de la croix devant la splendeur d'une solennité d'une messe? On en sort meilleur, plus pur, plus angélique. Paroles, actes, gestes, matières sont saints, beaux, élevants, purifiants. C'est normal que les pensées du monde soient éloignées, étrangères au prêtre qui est avec notre Seigneur sur la croix. Bon, voilà. Voyez un petit peu dans quel esprit, vous voyez, Monseigneur a fait cette déclaration. Vous sauvez ce qu'il y a de plus beau, de plus pur, de plus grand, ce qui fait justement la sainteté de l'Église. Voyez. Ah là là. Bon. Bon, puis là, après cela, ben ma foi, la querelle, bien sûr, va s'envenimer. Suite à cette déclaration, donc Monseigneur sera convoqué à Rome en février-mars 75, ce sont les entretiens avec les trois cardinaux, donc une commission cardinaliste qui était simplement un entretien et qui finalement va se transformer en véritable tribunal. C'est au cours de cet entretien que le cardinal Garonne dira à Monseigneur, mais vous êtes fou. Alors qu'avant, il avait dit que ce qu'il faisait, c'était très bien. Bon, enfin, c'est pas grave, ça. Donc, cet entretien avec les cardinaux qui va aboutir, tout simplement, en mai 75, Monseigneur Mamy écrit à Monseigneur pour lui déclarer qu'il supprime la fraternité, qu'il a reçu de Rome, l'autorisation de supprimer la fraternité. Donc, normalement, en mai 1975, la fraternité devait disparaître. Il fallait remettre, eh bien, tout, les maisons, tout ça, entre les mains des évêques. Alors, cette décision a été refusée, considérée comme illégale par Monseigneur, car elle est illégale, effectivement. Ça, c'est un article du droit. Un évêque peut donner naissance à une société religieuse dans son diocèse, mais une fois qu'elle est reconnue, seule Rome peut la supprimer. Un évêque ne peut pas supprimer une famille religieuse, une institution, même si c'est lui qui lui a donné naissance. C'est Rome qui doit, donc c'est le Vatican, qui doit procéder à la suppression. Alors, Monseigneur fera recours, justement, contre cette décision. Les recours seront rejetés sans être examinés. Et donc, bien, ma foi, les choses continuent. Monseigneur considère que la fraternité n'est pas supprimée. Cette suppression est illégale. Ces recours ne sont pas examinés. Bien, ma foi, tant pis, on continue. Puis on verra bien ce qui se passe. Oui. Et nous arrivons, bien sûr, à cet événement qui sera un peu la crise de la première phase. C'est le 29 juin 1976, où malgré donc les mises en garde qu'il avait reçues de Monseigneur Benelli, etc., eh bien Monseigneur procède à l'ordination des prêtres, Donc le 29 juin 1976, on lui avait demandé de différer, d'attendre, de ne pas faire ses ordinations, et Monseigneur est passé outre, il a fait quand même ses ordinations. C'est à la suite de ces ordinations, donc, que, bien, ma foi, sera fulminée la suspense à Divinis contre Monseigneur Lefebvre, donc suspense à Divinis, interdiction d'exercer, si l'on peut dire, eh bien, son ministère. Et cela n'empêche pas Monseigneur, eh bien, le 23 août 1976, eh bien, de célébrer cette fameuse messe de Lille qui a déclenché, qui a mis le feu aux poudres. C'est là que la presse, et surtout, s'est emparée de l'affaire en traitant Monseigneur de tous les noms d'oiseaux possibles et imaginables, puisque Monseigneur, au cours de cette messe, avait osé aborder un peu le problème politique. La restauration du règne social de notre Seigneur Jésus-Christ, ça c'est une chose dont ils ne font plus parler. Jusque-là, la presse considérait que c'était une affaire entre curés, si j'ose dire. Bon, parfois ils disputent entre eux, on rigole un peu, on se moquait un peu de Monseigneur. C'est un vieux rétrograde, mais là, attention, quand on commence à parler de la royauté sociale de notre Seigneur, alors là, la presse change elle-même de ton. Oui, bon. Ensuite, eh bien, ma foi, l'histoire, vous la connaissez un petit peu. Ce sera en septembre, le 11 septembre 1976, l'entrevue avec le pape Paul VI, entrevue un petit peu arrachée comme cela, mais qui se déroule plus ou moins bien. C'est au cours de cette entrevue. Alors bien sûr, les relations de cette entrevue que nous avons nous ont été faites par Monseigneur Lefebvre lui-même. Alors bien sûr, il est facile aux autres de dire eh bien qu'il nous a raconté des coups, que ça n'est pas vrai, que ça ne s'était pas passé comme ça. Bon, ma foi, en tout cas, Monseigneur nous a raconté cela. Notamment le pape Paul VI, à un moment, lui disant, mais enfin, qu'est-ce que c'est? Vous voulez prendre ma place, quand même? Bon, enfin, très sympère, quand même. Parlons sérieusement, quand même. Enfin. Ou bien, un autre moment, lui disant, lui reprochant de faire prêter un serment à ses séminaristes contre le pape. Bon, enfin, quand même. Où, quand, comment, et quel serment? Peut-être voulait-il parler, ou lui avait-on parlé du serment antimoderniste, qu'effectivement, nous continuons a prêté, que nos séminaristes prêtent encore, le serment antimoderniste qui était imposé par Saint-Pédis, qui a été supprimé ensuite par Paul VI, mais que nous continuons à faire. Alors évidemment, s'il s'estime moderniste, effectivement, le serment antimoderniste est peut-être contre lui, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, ce n'est pas du tout notre pensée lorsque nous le prêtons, c'est bien évident, vous voyez. Donc l'entrevue avec Paul VI qui se déroule plus ou moins bien, mais qui n'aboutira à rien. Et en 1978, autre entrevue avec Jean-Paul II, le 16 novembre 1978, peu de temps après l'élection de Jean-Paul II, une entrevue qui s'était déroulée assez bien. Monseigneur était revenu relativement confiant. Attention, on dit, bon, il y a peut-être un espoir, on ne sait jamais. Voilà, bon, et puis, bon, la suite, eh bien, ma foi, malheureusement, n'a pas confirmé ce petit espoir, cette confiance-là. Et ce sera donc l'accélération à partir des années 80-83, notamment en 1983, le 21 novembre 1983, vous aurez le manifeste épiscopal, là, ce qu'on appelle le manifeste épiscopal, signé par Mgr Lefebvre et Mgr de Castromayeur, donc conjointement, bon, qui n'aboutira à rien, qui n'aura pas de réponse, dans lequel, eh bien, ils avertissent un peu le pape de la gravité de la situation. Et en 1986, il y aura alors des événements, je crois, qui sont... et qui, je crois, vont être déterminants pour Monseigneur, ça. C'est la visite du pape à la synagogue, d'abord, de Rome, et puis ensuite, ce sera Assise. Enfin, l'événement d'Assise, pour Monseigneur, a été, je crois, le détonateur ou le déclencheur qui lui a fait comprendre que, non pas qu'il n'y avait plus rien à espérer, parce qu'on peut toujours espérer, mais que vraiment, c'était quasiment irréversible. C'était tellement engagé d'une façon tellement grave, vous voyez. Et c'est à l'occasion de la réunion d'Assises, donc d'octobre 86, que Mgr Lefebvre et Mgr de Castromayeur, une nouvelle fois, eh bien, font une déclaration qu'ils envoient au pape Jean-Paul II, donc suite à sa visite à la synagogue et au congrès des religions d'Assises, mais qui n'aura pas non plus de conséquences, pas de réponse. Et cela nous conduit à 1987, les ordinations de juin 1987, où Monseigneur, eh bien, malgré tout, 1987, il allait sur ses 82 ans, n'oublions pas, quand même, voilà. Et en juin 87, devant tous ces événements et l'absence de réaction de Rome, de quoi que ce soit, eh bien, Monseigneur, dans son serment, eh bien, parle de l'éventualité de faire des sacres au mois d'octobre suivant. Alors là, c'est le coup de tonnerre, bien sûr. Tout le monde s'émeut, et le 14 juillet 87, donc vous voyez là, tout de suite, les choses peuvent aller très vite à Rome, vous voyez, quand on secoue un peu le cocotier, si j'ose dire, vous voyez, ça peut aller... Habituellement, c'est très lent, voilà, il faut des mois et des années. Puis tout d'un coup, en un mois, vous voyez, toc, une entrevue avec le cardinal Ratzinger, qui compote, et tout se passe bien, à peu près. Et les choses, effectivement, eh bien là, il est vrai qu'il y a eu une période pendant laquelle, eh bien, nous avons cru que les choses pourraient s'arranger. Donc, cet accord pour une visite apostolique, donc ce sera la visite qui se déroulera et qui s'achèvera le 8 décembre 1987, visite du cardinal Gagnon et de Mgr Perle, que certains d'entre vous, sans doute, ont vu, ont rencontré, et visite qui s'est passée vraiment d'une façon délicieuse, on peut dire très, très, très agréable, partout, des louanges, c'est formidable ce que vous faites, etc. Enfin, bon, voilà, quoi. C'était extraordinaire, c'était trop beau. Mais c'est pas possible, on n'est pas si bon que ça, quand même. Oui, on est bien, mais enfin, quand même, faut pas exagérer. Mais vraiment, il y avait que des compliments. Bon, enfin, à peu près, quand même, ouais. À tel point, même, ça, c'est pour la petite histoire, vous voyez, à la fin de son séjour, donc à Écône, la visite s'est terminée à Écône le 8 décembre 1987, et le même jour, donc, Mgr Lefebvre a fait signer le livre d'or du séminaire d'Écône au cardinal Gagnon. Normal, quand même, cardinal, c'est pas tous les jours. Et le cardinal Gagnon, donc, a signé ce livre d'or, a mis un petit mot, et le Mgr Perle l'a contre-signé. Et voici ce qu'a mis le cardinal. Que la Vierge Immaculée écoute nos prières ferventes pour que l'œuvre de formation merveilleusement accomplie en cette maison trouve son rayonnement pour la vie de l'Église. C'est beau quand même, dites-moi. Bon, voilà. Et donc, apparemment, il y a le rapport. On pense que ce rapport a été favorable quand même. Bon, je pense sinon il n'aurait pas osé mettre des choses pareilles. Et à la suite de ce rapport, que Monseigneur ne verra jamais, nous n'aurons jamais communication de ce rapport, et nous l'attendons toujours, donc l'ouverture de négociations qui vont se dérouler en avril 88 à Rome entre deux prêtres de la fraternité, dont l'un finira évêque, hein, deux prêtres de la fraternité et puis des théologiens romains, négociations, bon, on discute, difficile, mais enfin on arrive plus ou moins facilement donc à ce fameux protocole d'accord. Protocole d'accord, attention, hein, je précise bien, il ne s'agit pas d'un accord, il s'agit d'un protocole d'accord, donc un projet, un avant, tout ce que vous voudrez. Bon, ce n'est pas encore l'accord définitif, donc sur lequel, effectivement, bien, Monseigneur Lefebvre et le cardinal Ratzinger tombent d'accord. Le cardinal Ratzinger le signe, et ensuite, eh bien, Monseigneur Lefebvre le signe également le 5 mai 1988. Et le lendemain, 6 mai 1988, donc après une nuit un peu agitée, Monseigneur avait signé ce protocole. Mais malgré tout, pendant les réunions, pendant les discussions, il avait bien vu qu'il y avait deux points sur lesquels ça a chopé, notamment la date des consécrations épiscopales, où il n'y avait pas moyen de tomber d'accord sur une date. Il avait demandé, il avait écrit au pape, même il avait demandé la date du 30 juin. Après les ordinations, tout le monde est là, bon, on fait deux cérémonies qui suivent, c'est plus facile, au plan même organisation, matériel, tout ça, les prêtres le 29, les évêques le 30 juin, et puis tout va bien, quoi, hein, c'est facile. Et puis, dans les discussions, toujours, le cardinal dit, oh non, le 30 juin, non, non, c'est trop, on n'aura pas le temps d'étudier les dossiers, et puis après, alors, le 15 août, oh non, en août, vous savez, tout est fermé à Rome, bah, ça c'est pas, en mois d'août, ça c'est pas possible. Bon, alors plus tard, et puis, Noël, oh, je sais pas, on peut rien vous dire. Donc, aucune, si vous voulez, réponse nette un petit peu sur l'éventualité d'une date, vous voyez, vraiment un peu plus précise. Alors, c'est sans doute à la suite un petit peu de cette inquiétude, cette crainte-là, eh bien que le 6 mai 1988, Monseigneur écrit cette fameuse lettre dans laquelle on dit qu'il est revenu sur la signature de la veille. Tout le monde l'a dit, que le 5 mai, Monseigneur avait signé, et le 6 mai, il a changé d'avis, il a dit non, finalement, c'est pas vrai, je retire ma signature. Absolument pas. Éminence, hier, c'est avec une réelle satisfaction que j'ai apposé ma signature au protocole élaboré les jours précédents. Je ne vois pas où est le reniement de la signature qu'il avait donnée, puisqu'au contraire, il dit qu'il était content d'avoir donné cette signature. Mais vous avez constaté vous-même, etc., pratiquement reporté la consécration épiscopale à une date ultérieure non fixée, ce serait la quatrième fois que je remettrai la date de la consécration. La date du 30 juin était bien indiquée dans mes lettres précédentes comme la date limite. Oui. Donc la question sur laquelle Monseigneur revient, pour avoir une précision, c'est la question de la date. Bon, on est tombé d'accord pour avoir un évêque. Maintenant, je veux cette date du 30 juin. J'y tiens. Bon, est-ce que c'est vraiment, moi je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment, je dirais, un rejet pur et simple, eh bien, de l'accord qu'il avait signé ou du protocole qu'il avait signé la veille? Je ne le pense pas, quant à moi. Je ne le crois pas. Et c'est le cardinal Ratzinger qui, lui, dans sa réponse, étant donné que ces intentions, que vos intentions sont en contraste très net avec ce qui a été accepté par vous lors de notre colloque, etc., je désire vous informer sans retard que la publication du communiqué de presse prévu doit pour l'instant être différée. Donc c'est lui qui, en fait, eh bien, casse un petit peu la mécanique, arrête la mécanique qui était lancée. Bon, Monseigneur demandait une précision sur la date, il demandait le 30 juin, et le cardinal Ratzinger est bien décidé, puisque c'est comme ça, ben ma foi, on remet ça sine die. Bon, alors, etc., etc., vous connaissez un petit peu la suite, donc il y aura encore d'autres entrevues, au moins une entrevue avec le cardinal Ratzinger, et puis finalement, ben, les choses n'aboutiront pas. Le 30 mai 88, le cardinal Ratzinger écrit à Monseigneur en en lui disant que le pape est prêt à examiner l'éventualité de faire accélérer l'examen du dossier pour que la consécration puisse avoir peut-être lieu éventuellement le 15 août. Bon, enfin, vous voyez les formules romaines qui veulent dire que, ben, pas grand-chose, en fait. Et Monseigneur, en fait, je crois qu'il n'a pas eu confiance, tout simplement. Il s'est dit, je suis en train de me faire rouler. Ouais. Et c'est pourquoi, ben, ma foi, il a donc décidé et annoncé le 15 juin sa décision, eh bien, de procéder le 30 juin au sacre de 4 évêques pris dans la fraternité. Et quelle était l'intention de Monseigneur dans ce sacre? Eh bien, il faut la prendre dans la déclaration publique qu'il a faite à cette occasion, voyez. Il revient justement sur cette question du concile, voyez. C'est la question pour lui, c'est toujours pareil, ce sont les thèses du concile. Son problème, c'est pas tellement le pape, voyez. On dit toujours, vous êtes contre le pape. Non! Non, on n'est pas contre le pape. Nous sommes contre les thèses conciliaires. Nous sommes contre l'esprit conciliaire. Et aussi longtemps que le pape, eh bien, nous prêche les thèses conciliaires, on lui dit, très Saint-Père, excusez-nous, mais on n'écoute pas. Prêchez-nous la foi catholique traditionnelle. Alors là, il n'y a pas de problème. Les thèses conciliaires, elles ne sont pas conformes. Prêchez-nous la foi étrangère, vous voyez, dans la doctrine de l'Église. Il n'y a rien pas conformité avec la foi de l'Église. Alors, c'est cela que nous n'acceptons pas, vous voyez. Et c'est cela que Monseigneur n'acceptait pas. Bon, il en parle un petit peu, justement, la liberté religieuse, l'œcuménisme, c'est ces deux points-là, surtout, et donc rien n'est plus urgent que de former un clergé qui répudie cet esprit adultère et moderniste et sauve la gloire de l'Église et de son divin fondateur. Et pour sauvegarder le sacerdoce catholique, il faut des évêques catholiques. C'est très simple, c'est très logique, oui. Il est parfois nécessaire d'abandonner la légalité pour demeurer dans le droit. Nous affirmons donc notre attachement et notre soumission au Saint-Siège et au Pape. Nous avons conscience, en accomplissant cet acte, de continuer notre service de l'Église et de la papauté. Le jour où le Vatican sera délivré de cette occupation moderniste et retrouvera le chemin suivi par l'Église jusqu'à Vatican II, nos évêques seront entièrement dans les mains du souverain pontife, y compris l'éventualité de ne plus exercer leur fonction épiscopale. Nos évêques seront entre les mains. Ils sont. Quand le pape le voudra, nos évêques seront entre les mains du souverain pontife. Donc, c'est le sacre de ces 4 évêques, alors à la suite desquels, eh bien, il s'est passé tout un tas de choses encore, et qu'il faut continuer. Revenons un petit peu, je marche sur cette question du sacre, je crois que c'est là un petit peu quand même ce qui est peut-être le plus important, mais je pense que tout cela n'était pas mauvais se remettre un petit peu dans le fil un peu de l'histoire, retrouver un peu la pensée, la raison de la résistance de Monseigneur Lefebvre. Ouais. Alors maintenant, bien sûr, on nous accuse, à la suite de ce sacre, on a accusé Monseigneur d'avoir commis un acte schismatique, d'avoir ouvert un schisme, on nous accuse donc d'être schismatique, excommunié, etc., etc. Alors, ma foi, examinons un peu la question. Tout d'abord la question du schisme, ensuite celle de l'excommunication. Le schisme. Qu'est-ce que le schisme? Alors, vous avez cela dans tout un tas de... Toutes les études qui ont été faites, vous en ont parlé. Alors, vous avez celle de l'abbé Pivert qui a été faite, le dossier de Fidélitaire, vous avez la tradition excommuniée de Cicinono, vous avez le numéro de certitude en vente à la sortie, etc. Tout cela, vous l'avez là-dedans, hein. Mais comme tout n'est pas toujours facile à lire et bien, peut-être à bien comprendre. Quelques définitions sur le schisme. Que dit saint Thomas d'Aquin? Référons-nous quand même au docteur commun. Sont nommés schismatiques ceux qui ne gardent pas les observances communes et refusent d'obéir aux prélats ecclésiastiques en préférant constituer par eux-mêmes une église particulière. Et donc c'est cette volonté de constituer une église particulière, refus d'obéir, mais pour faire sa petite affaire à soi. Oui. Le Torquemada, ça c'est la certitude qui vous cite ce texte-là. Le schisme est une division illicite qui intervient seulement lorsqu'on se sépare du pape par désobéissance à des ordres qui sont licites, honnêtes et qui relèvent de sa juridiction. Parce que si le pontife romain donnait des ordres mauvais en soi, par exemple contraires à la loi divine ou à la foi, ou au salut des âmes, en de telles occurrences, la désobéissance au pontife romain ne serait pas illicite et donc il n'y aurait pas de schisme. Si en conscience, oui, on constate eh bien que la façon dont le pontife romain gouverne l'Église, voyez, eh bien crée un état tel que la foi est en danger, que le salut des âmes est en danger, à ce moment-là, ben on peut lui désobéir sans être schismatique. Il y a même, Torquemada parle même d'une désobéissance légitime. Il y a une désobéissance légitime. Vous voyez, pour que la désobéissance soit illégitime, il faut qu'il y ait une désobéissance obstinée, constatée devant un tribunal et une rébellion. J'entends par rébellion un mépris obstiné des préceptes que l'on nous impose et du jugement que l'on a à subir. Donc un mépris obstiné. Qu'ai-je tant, que dit-il lui ? Si obstinée soit-elle, la désobéissance n'est pas un schisme, tant qu'elle ne comporte pas une révolte contre la fonction du pape et de l'Église. Oui, tant qu'elle ne comporte pas une révolte contre la fonction du pape. Même si le désobéissant, c'est Cajetan qui dit cela encore, même si le désobéissant a très gravement tort de désobéir, même s'il a tort, oui, il ne sera pas schismatique pour autant. Il arrive souvent de ne pas vouloir suivre un ordre d'un supérieur tout en reconnaissant son autorité. On reconnaît son autorité, mais on ne lui obéit pas. Si quelqu'un, qu'ajoutant encore, si quelqu'un a certaines raisons de tenir pour suspecte la personne du pape et pour cela refuse non seulement sa présence, mais son jugement, il n'encourt aucune accusation de schisme ou d'un autre vice pour cela. Oui, parce que il y a un truc ici. On n'a pas confiance, si vous voulez, pratiquement, tout simplement. Oui. Et c'est le même Cajetan qui dit encore que la personne du pape peut gouverner en tyran. Et ce, d'autant plus facilement qu'elle dispose de plus de puissance. Oui, c'est bon. Le père Congar, que dit-il du schisme, le père Congar, ce bon père Congar? C'est lui qui a fait dans le dictionnaire de théologie catholique, c'est lui qui a fait l'article sur le schisme, c'est intéressant. Donc c'est plus proche de nous, que dit-il. Le schisme se vérifierait si le refus d'obéir s'attaquait dans l'ordre reçu ou la décision promulguée à l'autorité même reconnue par ailleurs réelle et compétente qui a donné cet ordre. Il y aurait schisme si on s'attaquait donc à l'autorité même, non pas à l'ordre reçu, mais si on s'attaquait qui a donné cet ordre. C'est là qu'il y aurait schisme. Ouais. Naz, canoniste. Le schisme suppose un refus systématique et habituel de dépendance. Un refus systématique et habituel. Ouais. A priori, non. On fait notre petite affaire à nous de notre côté et on ne s'occupe plus de ce que peut dire le pape. Ouais. Monseigneur Valdrini, qui est le recteur de l'Institut catholique et qui était le recteur de la Cato de Paris en 88, eh bien, est d'accord avec nous, puisqu'il dit, enfin d'accord avec nous, je m'entends sur ce point-là au moins, que l'excommunication de Monseigneur Lefebvre sanctionne sa désobéissance grave. Elle n'implique pas nécessairement un schisme. Désobéissance, oui, mais pas de schisme. Le cardinal Castillo Lara, vous avez cela, je crois, dans le petit tract qui a été fait, « Le seul fait de consacrer un évêque n'est pas en soi un acte schismatique. En fait, les délits sont classés dans le Code sous deux rubriques diverses. Il y a les délits contre la religion et l'unité de l'Église. Par contre, consacrer un évêque sans le mandat pontifical est un délit contre l'exercice de son propre ministère. » Alors c'est là, je crois, la question qui mérite d'être un petit peu quand même rappelée. Bien sûr, ce sont des considérations de droit canon, c'est clair, mais c'est avec le droit canon qu'on nous a condamnés, donc il est permis de se défendre également avec le droit canon. C'est tout à fait normal, je crois. Et il faut se rappeler que le schisme, plutôt jusqu'en 1951, donc l'ancien droit canon, celui de 1917, jusqu'en 1951, frappait un évêque qui consacrait d'autres évêques sans le mandat pontifical de la peine de la suspense. C'est important cela à se rappeler. Donc jusqu'en 1951, Monseigneur Lefebvre aurait été puni simplement, s'il avait fait ces sacres-là, de la suspense. Voilà. Donc en gros la peine qu'il avait reçue déjà pour l'ordination des prêtres en 1976. Et dans le même temps, attention, le même droit canon frappait le schismatique de la peine de l'excommunication. Donc l'ancien droit canon, c'est bien clair, ne mettait pas sur le même plan consécration d'évêques sans mandat et schisme. Des deux délits différents. L'un était frappé de la suspense, l'autre était frappé de l'excommunication. Donc, sacrer un évêque sans mandat pontifical n'était pas schismatique. Sinon, ça aurait été frappé de l'excommunication. C'est clair. Ça va tout seul, tout cela. Et en 1951, le 9 avril 1951, un décret, porte la peine de la consécration d'évêques sans mandat, élève cette peine, justement, jusqu'à l'excommunication. Donc, changement, là, donc, dans la peine portée. Et cela, c'est suite à l'affaire de Chine, où, précisément, était en train de se mettre en place une église nationale, schismatique, effectivement. C'était même le peuple qui choisissait, sous la pression, bien sûr, du gouvernement, des autorités, c'était le peuple qui élisait ses évêques, et puis, les évêques se sacraient entre eux. On commençait à sacrer des évêques pour constituer une église nationale sous la botte du pouvoir communiste, et donc complètement indépendante et détachée de Rome. Donc, constitution d'une église schismatique. Et c'est en raison de cela, que ce décret a été porté à cause du schisme, à cause de de l'intention schismatique, de ces consécrations épiscopales. Et c'est ce que Pie XII expliquera, justement, dans son encyclique, là. Je dois avoir quelque part, une encyclique du 29 juin 1958, où il rappelle, justement, cette excommunication qui est prononcée, maintenant, contre un évêque qui sacre d'autres évêques sans le mandat pontifical, car c'était le signe de rébellion à l'Église, et que le droit prétendu des catholiques d'élire les évêques, etc. Donc là, effectivement, constitution d'une Église indépendante de Rome, et donc une Église véritablement schismatique. Voilà. Voilà donc quelle était la situation sous l'ancien droit canon, peine de la suspense, peine de l'excommunication pour le schisme, et puis le sacre sans mandat élevé, donc puni ensuite de l'excommunication. Que dit le nouveau droit canon? Bien sûr, le nouveau droit canon, 1983, va reprendre cette dernière discipline du code antérieur. Mais regardons bien les choses, c'est ce que dit le cardinal Lara, et les choses sont très simples. Vous avez dans la partie qui traite des peines pour les délits particuliers, il y a plusieurs chapitres. Il y a un chapitre qui traite des délits contre la religion et l'unité de l'Église. Et là, on vous parle d'abord, l'apostat de la foi, l'hérétique ou le schismatique encourt une excommunication late sententiae. Voilà, donc ça, c'est un délit contre la religion et l'unité de l'Église. Schismatique, excommunication. Bien. Ensuite, vous avez un autre titre, 2, et le titre 3 nous traite de l'usurpation des charges ecclésiastiques et les délits dans l'exercice de ces charges. Et le canon 1382 nous dit, justement, dans cette série, des délits de l'usurpation des charges ecclésiastiques. L'évêque qui, sans mandat pontifical, consacre quelqu'un évêque, et de même celui qui reçoit la consécration de cet évêque, encourt l'excommunication late sententiae, et de même servait au siège apostolique. Donc le nouveau droit canon, a repris la même distinction. Il y a d'un côté le schisme, puni de l'excommunication, et d'un autre côté la consécration d'un évêque sans mandat, puni également de l'excommunication, mais ce sont deux délits différents. Le délit de schisme et le délit de la consécration sans mandat sont deux délits différents. Donc, consacrer un évêque sans mandat n'est pas équivalent au schisme. Ce sont deux délits différents. La chose est très claire. Elle est dans le droit actuel, le droit ancien et le droit actuel. Oui. Donc, ceci, c'est le droit qui le dit. En plus, si vous regardez l'intention de Monseigneur, il l'a dit je ne sais combien de fois, Monseigneur n'a jamais eu la moindre intention précisément schismatique. Son intention n'a jamais été de constituer une église parallèle, une église à part, etc. Il l'a dit je ne sais combien de fois, déjà en juin 87, dans une lettre à ses prêtres. Il disait « S'il fallait un jour consacrer des évêques, ceux-ci n'auraient pour fonction épiscopale que d'exercer leur pouvoir d'ordre et n'auraient pas de pouvoir de juridiction, n'ayant pas de mission canonique. » Oui, voilà son intention. Simplement leur conférer le pouvoir d'ordre sans leur donner de juridiction, puisque lui-même ne l'avait pas. Il ne pouvait pas la leur donner. De toute façon, seul le pape peut donner juridiction à un évêque. Oui. C'est-à-dire lui confier un troupeau, confier donc un diocèse, confier un troupeau à un évêque et lui donner juridiction, compétence donc sur ce troupeau. Oui. Et Monseigneur n'a pas fait cela. Il leur a donné simplement le pouvoir d'ordre pour prêcher la foi et pour ordonner des prêtres, éventuellement sacrer des évêques si la chose était nécessaire. Mais il ne leur a pas donné de juridiction, précisément parce qu'il n'avait pas l'intention de constituer des diocèses particuliers et une église particulière. Et il le redira, nous l'avons vu tout à l'heure justement dans cette déclaration qu'il fait à l'occasion des sacres, ce n'est nullement dans un esprit de rupture ou de schisme que nous accomplissons ces consécrations épiscopales, mais pour venir au secours de l'Église. Nous affirmons notre attachement et notre soumission au Saint-Siège et au Pape. Bon, nous l'avons vu tout à l'heure. Et dans la lettre qu'il écrit aux évêques, cette lettre qui est très belle, que vous avez peut-être lue, je pense, il rappelle précisément bien la raison d'être de ces sacres. Ouais, cette nécessité dans laquelle se trouve l'Église. Ouais. C'est l'argument de la nécessité. Tout se fonde dans notre action sur la nécessité. Est-ce que vraiment nous sommes actuellement dans un état de nécessité? Oui ou non? Est-ce que ces thèses conciliaires ont rendu l'Église plus belle, plus forte, plus généreuse, plus sanctifiante pour les âmes, ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas une certaine crise dans l'Église? Paul VI l'a dit, semble-t-il, et d'autres encore. Oui, bon. Donc la nécessité absolue de la permanence et de la continuation du sacrifice adorable de notre Seigneur pour que son règne arrive. Vous voyez, toujours la même raison, la messe, le saint sacrifice de la messe, et donc des prêtres, et donc des évêques pour faire des prêtres, bon, et donc des séminaires, et tout ce qui tourne autour du sacerdoce. Ouais. Je vous conférerai cette grâce, confiant que sans tarder, le siège de Pierre sera occupé par un successeur de Pierre parfaitement catholique, en les mains duquel vous pourrez déposer la grâce de votre épiscopat pour qu'il la confirme. Voilà, un jour, eh bien, nous espérons que nos évêques pourront déposer la grâce de leur épiscopat entre les mains du Saint-Père pour qu'il la confirme. Je vous conjure de demeurer attaché au siège de Pierre, à l'Église romaine, mère et maîtresse de toutes les églises, etc., etc. Alors, où est l'esprit schismatique? Où est l'intention schismatique? Donc, non seulement il n'y a pas de schisme selon le droit, il n'y a même pas, oui, c'est clair cela, dans l'esprit de Monseigneur, jamais l'intention de constituer une église, eh bien, qui ne soit pas l'église catholique, non. Simplement continuer au sein de l'église, eh bien, sa mission d'évêque pour faire des prêtres. Hein. Et la chose est, ce qui est troublant en plus, c'est quand on considère un peu comment c'est opéré, je dirais, au plan concret, la condamnation même de Monseigneur Lefebvre. Des choses troublantes, des choses troublantes. Il y a eu d'abord un monitum du cardinal Gantin. C'est normal, avant de punir quelqu'un, on lui donne un avertissement, une monition. Bon, c'est tout à fait normal. Donc un monitum qui lui a été envoyé le 17 juin 1988, et dans laquelle le cardinal Gantin, donc, lui dit, par mandat bien sûr du souverain pontife, que si vous mettez exécution, ce qui est mentionné ci-dessus, etc., hein, vous encourez, les évêques aussi, ipso facto, l'excommunication late sententiae réservée au siège apostolique selon le canon 1382. Point. C'est intéressant, moi ça m'intéresse, là, c'est que avant les sacres, le cardinal Gantin ne menaçait Mgr Lefebvre que de l'excommunication prévue pour le sacre d'évêque sans mandat. Mais il ne parle pas de schisme. Il ne lui dit pas, vous allez commettre un schisme ou un acte schismatique, il ne lui dit pas cela. Non, il l'avertit que s'il fait ce qu'il veut faire, eh bien, il sera passible du canon 1382, c'est le deuxième que nous avons vu, celui qui punit donc le sacre d'évêque sans mandat. Un point, c'est tout. Il n'évoque absolument pas l'idée d'un schisme. Intéressant. Avant. Et puis après, alors là, après, là, c'est les coups de massue, bien sûr. On met un petit peu tout ce qu'on peut mettre, vous voyez, pour peut-être effrayer un petit peu les fidèles ou je ne sais qui. Et dans le décret donc qui prononce, qui fulmine, si l'on peut dire, ou qui déclare l'excommunication, eh bien, le cardinal Gantin, c'est encore lui, alors cette fois, quand même, tourne un petit peu autour du schisme, si l'on ose dire, vous voyez. Il dit que Monseigneur a accompli un acte de nature schismatique. Bon, ce n'est pas un schisme, c'est attention. Un schisme, c'est un état, si on peut dire. Hein, un état dans lequel on est installé. On est dans un schisme. Un acte de nature schismatique, c'est autre chose. Bon. Et cette fois, donc, il évoque le canon 1364, paragraphe 1, celui qui parle effectivement du schisme. Oui, bon. Ensuite, il déclare que les autres, eh bien, qui ont adhéré à l'acte schismatique, ont encouru l'excommunication également. Et enfin, il avertit les prêtres et les fidèles de ne pas adhérer au schisme de Mgr Lefebvre. Le mot y est. Bon, le mot y est, c'est vrai, mais ce n'est pas ainsi que normalement, dans l'Église, eh bien, on déclare l'ouverture d'un schisme. Quand un schisme existe, eh bien, il faut le définir. Quel est l'acte, si l'on peut dire, quel est l'état qui définit le schisme. Où est le schisme? Où n'est-il pas? Qui est schismatique et qui ne l'est pas? Là, c'est le flou le plus complet. On ne sait pas où est le schisme, où il n'est pas, quelles sont ses limites et qu'est-ce qu'il faut faire pour être schismatique ou ne pas l'être. Oui. Bon, le mot est utilisé une seule fois dans ce décret du cardinal Gantin. Oui. Et le motu proprio ecclesia dei afflicta, lui, ne parle pas de schisme. Il parle d'acte schismatique encore. Cet acte a été une désobéissance au souverain pontife en une matière très grave. Très bien. Il parle de l'excommunication prévue par la discipline ecclésiastique et le motu proprio se réfère à cet endroit-là encore au canon 1382, celui qui traite du sacre sans mandat, pas celui du schisme. Oui. Bon. Et ensuite, alors, il y a une phrase, le mot schisme y est comme une fois, mais qui est, dirais, plus général, oui, qui ne vise pas directement un soi-disant schisme qui existerait. Nul ne doit ignorer que l'adhésion formelle au schisme constitue une grave offense à Dieu et comporte l'excommunication prévue par le droit de l'Église. Bon, mais ça, c'est une considération générale. Quand on adhère au schisme, eh bien, ma foi, on est excommunié. Bon, voilà une petite phrase mise en passant. Mais dans tous ces textes-là, il manque justement la déclaration, eh bien, de l'ouverture d'un schisme. Où est le schisme? Qu'est-ce que c'est que ce schisme qui est ouvert par Mgr Lefebvre? Oui. Rappelez-vous qu'il y a ces deux délits différents. Le délit de schisme et le délit de sacrer un évêque sans mandat pontifical. Bien. Que Mgr ait commis le deuxième délit, d'accord, allez, en avant, on vous l'accorde, si là je veux bien, c'est vrai, comme s'il l'a fait, ça c'est vrai. Bon, mais alors si maintenant on veut qu'il soit schismatique, il a dû faire quelque chose en plus. Sacrer un évêque sans mandat ne suffit pas pour être schismatique. Alors ma question, que je pose depuis des années et à laquelle personne ne me répond, qu'est-ce que Monseigneur a fait en plus? Quel est le délit supplémentaire qu'il a commis pour que ce sacre sans mandat soit devenu schismatique? Qu'est-ce qu'il y a eu de plus pour que ce soit un schisme? Voilà ma question. Ben, si quelqu'un peut me répondre, je serais très content. Mais pour l'instant, j'ai même écrit autrefois à l'évêque de Sion qui n'a pas été capable de me répondre. Il m'a dit je ne suis pas compétent. Bon, moi je veux bien, mais alors, bon. Mais cela n'empêche pas les évêques et les journalistes de nous accuser de schismatique. Mais vous remarquerez que Rome, lui, n'en parle pas. Rome ne parle jamais du schisme de Mgr Lefebvre. Jamais. Bon. Il y a une chose assez troublante encore dans tout cela. Eh bien, c'est que c'est bénin, peut-être très bénin, mais enfin, c'est parfois des petites choses comme ça qui sont éclairantes. C'est que dans le motu proprio qui est de Ecclesia dei Afflicta, il y a eu une faute de latin. Dommage, quand même, pour excommunier Mgr Lefebvre. Bon, hein, mais enfin, peu importe. Alors, une faute de latin. Alors, bien sûr, les journaux, à l'époque, se sont emparés de l'affaire. Tout le monde a rigolé là-dessus, ça, c'est clair. Bon, c'est la petite histoire. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est la réponse qu'a donnée la salle de presse du Vatican. Oui. À la suite de cela, les latinistes du Vatican ont expliqué leur bévue par la précipitation qui a marqué leurs travaux. Et voilà ce que je trouve de grave, moi. C'est cette précipitation pour excommunier un évêque, un archevêque de l'Église catholique, et jeter comme ça dire le trouble et le discrédit sur toute une partie de l'Église, faire ça dans la précipitation, c'est pas du bon Dieu, ça. C'est pas du bon Dieu. Moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais hein, qu'on fasse les choses comme il faut. Bon. Faute de latin, c'est pas grave, mais qu'on fasse ça à cause de la précipitation, parce qu'on a fait ça dans la nuit du 30 juin au 1er juillet, ou je ne sais quoi, c'est pas sérieux. Bon, enfin. Ce qui me mène à penser que peut-être, justement, on a fait ces textes un petit peu à la va-vite, et puis on a saupoudré tout cela d'un peu de schisme, quand même, pour faire peur aux fidèles, faire peur aux prêtres, etc., et puis peut-être en décider quelques-uns, le plus possible, justement, eh bien, à s'écarter de Mgr Lefebvre. Et vous savez que le Vatican croyait que 80% des fidèles nous quitteraient après l'acte du 30 juin. Eh bien, c'est pas tout à fait ce qui s'est produit, grâce à Dieu. Bon. Donc, pas de schisme. Pour moi, la chose est très claire, et j'espère qu'elle l'est pour vous aussi. Il n'y a pas de schisme. Et je croirai au schisme, mais le jour où on m'aura dit où est le schisme, pour l'instant, j'attends toujours. Et je crois que j'attendrai encore longtemps. En plus de ça, il n'y a pas d'excommunication. L'excommunication n'est pas valide, en plus. Cette excommunication qui a été fulminée contre Monseigneur, eh bien, n'est pas valide. Pourquoi? Mais toujours pareil, le droit canon. Moi, je n'invente rien. Je suis pas assez intelligent pour cela. Donc, le droit canon nous dit ceci, ce sont les canons 1323 et 1324, écoutez bien, n'est punissable d'aucune peine la personne qui, lorsqu'elle a violé une loi ou un précepte, etc., etc., a agi forcé par une crainte grave ou bien poussé par la nécessité ou pour éviter un grave inconvénient. Donc, celui-là n'est punissable d'aucune peine. Or, c'est précisément l'argumentation que nous avançons depuis 88, c'est cet état de nécessité. Alors, on va nous dire, mais vous vous trompez, mais non, il n'y a pas nécessité, tout ça, c'est vous qui vous imaginez des trucs et des machins, et puis c'est vous qui mettez la pagaille, non, il n'y a pas de nécessité. Canon 1324, écoutez bien. L'auteur d'une violation n'est pas exempt de peine, mais la peine prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée. Ou encore, une pénitence doit lui être substituée si le délit a été accompli par qui, par une erreur dont il est coupable, a cru que se présentait une des circonstances dont il s'agit au canon 1323. Donc même si Monseigneur était coupable, et de l'erreur qu'il a fait, l'erreur d'appréciation de la situation de l'Église, même s'il était coupable de cela, vous voyez, d'avoir porté un mauvais jugement sur l'état de nécessité de l'Église, eh bien la peine doit être tempérée. Et la fin du canon, le dernier paragraphe de ce même canon, nous dit, dans les circonstances dont il s'agit au paragraphe 1, le coupable n'est pas frappé par une peine late sententiae. Donc, Monseigneur, selon le droit, ne pouvait pas, ne devait pas être puni par une excommunication late sententiae. Donc, il ne l'est pas. Donc, il n'y a pas de schisme. Donc, il n'y a pas d'excommunication. Donc, dormez tranquille. Ce qu'il y a, moi, je crois, au contraire, ce qu'il y a... On a bien fait de commencer plus tôt. Hein. Ce qu'il y a, eh bien, il y a, je crois, un acte, ce que j'ose qualifier, moi, un acte héroïque de la vertu d'obéissance. De la vertu d'obéissance. Qu'est-ce que l'obéissance? Il faut quand même rappeler quelques petites choses. Hein. Mais excusez, si ça dure un peu longtemps, mais enfin, je crois que le sujet le mérite. Qu'est-ce que l'obéissance? Eh bien, l'obéissance, c'est une vertu, bien sûr, qui est annexe de la vertu de religion. Elle se réfère donc à la vertu de religion, l'obéissance, vous voyez. Et elle nous porte à observer les ordres du supérieur par respect pour l'autorité même qui les a dictées. Et par respect pour l'autorité, eh bien, on respecte, donc, on accomplit les ordres du supérieur. Mais, c'est Don Lautin qui dit cela, et c'est très juste cela, on voit que c'est la religion ou révérence envers Dieu qui est le dernier motif de l'obéissance envers toute autorité créée. Le dernier, le motif ultime de l'obéissance envers une autorité créée, c'est la révérence envers Dieu. En tant que cette autorité créée, eh bien, est l'instrument, ou le ministre, si l'on veut, eh bien, de l'autorité même de Dieu. Si certains de mes semblables ont le pouvoir de lier ma volonté par des ordres, ce n'est pas à cause d'un pouvoir qui leur appartiendrait en propre, mais c'est uniquement parce qu'ils participent au souverain domaine de Dieu sur mon libre arbitre. C'est dans la révérence dont j'entoure la plénitude des droits de Dieu que je puiserai le motif ultime de mon obéissance à toute autorité créée. Voyez, donc l'obéissance que je dois à quelque autorité, même la plus élevée sur la terre, eh bien, doit toujours se référer, être un acte de révérence envers le souverain domaine de Dieu. Et saint Thomas d'Aquin, bien sûr, nous en parle à profusion de cette vertu d'obéissance, en nous disant que la règle première dans la vertu d'obéissance, eh bien, précisément, c'est la volonté de Dieu. La volonté divine est la règle première. Toutes les volontés raisonnables sont réglées par elle, mais plus ou moins immédiatement, selon l'ordre établi par Dieu. Ainsi, parmi les hommes, la volonté de celui qui commande peut être considérée comme la règle seconde de la volonté de celui qui obéit. Mais la règle première, c'est la volonté de Dieu, et la règle seconde, eh bien, c'est l'autorité qui me commande. Bien sûr, elle existe, il ne s'agit pas de la nier, de la mépriser, mais elle n'est que règle seconde, quelle que soit, encore une fois, l'autorité. Et cette obéissance doit avoir certaines qualités pour être vertueuse. Saint Thomas d'Aquin nous dit justement bien qu'elle doit avoir au moins quatre qualités. La première, c'est d'être ordonnée. Ordonnée, donc, vers une œuvre bonne. Donc, vers le bien, la vertu. Bon, elle doit être prompte. Voilà, il ne faut pas traîner la patte, elle doit être parfaite, donc on obéit parfaitement, mais elle doit être également discrète. Discrète, cela veut dire, eh bien, elle doit user de discernement. Il faut obéir à qui il faut obéir et en quoi on doit lui obéir. Il ne s'agit pas d'obéir à n'importe qui et à n'importe quoi, donc il faut discerner à qui on doit obéir et en quoi on lui doit cette obéissance. À ce moment-là, eh bien, elle sera vertueuse. Ouais. Et donc, il s'agit précisément bien de ne pas céder au désordre par cette vertu de l'obéissance. Voici ce que dit encore saint Thomas d'Aquin, il parle des parfaits, les grands ou les parfaits. Et rappelons que les évêques, eh bien, sont dans l'état de la perfection acquise. Bon. Même s'ils ne sont pas saints, ils sont comme dans un certain état de perfection. Ils sont parmi les grands dans l'Église, c'est bien clair. Hein? Eh bien, les grands, c'est-à-dire les parfaits, adhèrent à Dieu seul, dont la bonté est immuable. Dieu seul est immuable, Dieu seul est parfaitement infaillible. Car s'ils adhèrent à leur supérieur, ils n'adhèrent à eux que dans la mesure où ceux-ci adhèrent au Christ. Clair cela, vous voyez, la règle première c'est Dieu, la règle seconde ce sont les supérieurs. C'est pourquoi, s'ils voient les autres céder au désordre dans leurs paroles ou leurs actes, eux-mêmes ne se détournent pas pour autant de la voie droite. Si on voit des supérieurs ou des égaux ou d'autres qui se détournent de la voie droite, eh bien, ma foi, on garde la référence à la règle première, on ne va pas se détourner justement de cette obéissance à Dieu, et même s'il le faut, eh bien, on va leur résister publiquement. Il y aura même ce devoir de reprendre parfois les supérieurs. S'il s'agissait d'un danger pour la foi, ce que dit saint Thomas, cela, s'il s'agissait d'un danger pour la foi, les supérieurs devraient être repris par leurs inférieurs même publiquement. Devraient, attention, hein, pas pourraient, devraient. S'il y a un danger pour la foi, les supérieurs doivent être repris publiquement par leurs inférieurs. Cela ressort de la manière et de la raison d'agir de saint Paul à l'égard de saint Pierre. épisode bien connu. Donc, ne pas céder au désordre, même devoir parfois de reprendre le désordre. Et il y a des motifs, justement, qui légitiment à ce moment-là la désobéissance, par exemple, un ordre donné par abus de pouvoir. Si le pape, mettons, bien abuse de son pouvoir, abuse de son autorité pour m'orienter dans une direction qui n'est pas conforme à la direction de l'Église générale, vous voyez, eh bien, il peut y avoir un abus de pouvoir. Et à ce moment-là, bien sûr, il y a le devoir de ne pas obéir. Et il faut se rappeler dans tout cela, en tout cas, cette question de l'obéissance, et que l'obéissance n'est pas une vertu théologale. Saint Thomas d'Aquin le remarque, et ça fait du bien d'entendre de le rappeler quand même. L'obéissance n'est pas une vertu théologale. Elle n'a pas Dieu pour objet direct, précisément, mais l'ordre donné par tout supérieur explicitement ou implicitement. C'est une vertu morale. Puisqu'elle fait partie de la justice et de la religion, et elle tient le milieu entre un excès et un défaut. Dans l'obéissance, on peut pécher contre l'obéissance par excès ou par défaut. On peut pécher par excès par ce qu'on appelle le servilisme, et par défaut, bien sûr, par la désobéissance. Bon, ça c'est bien clair, hein. Deux excès. Enfin, deux façons de pécher contre l'obéissance, oui. Et le Père Calmel, alors là, ça c'est... Lisez le Père Calmel, lisez ça, lisez cette brève apologie pour l'Église du toujours du Père Calmel. Et là, je dirais, vous serez guéri contre tous les doutes que vous pouvez avoir dans la situation de l'Église actuelle. Ouais. Notamment ce chapitre de l'Église et du Pape. C'est une merveille d'équilibre, de précision, de justice, c'est extraordinaire. Mais dans un autre ouvrage, c'est dans ces mystères du Royaume de la Grâce, il nous parle de l'obéissance, et il y a des lignes qui sont délicieuses. C'est tellement beau. Il est de la nature de l'obéissance d'avoir des limites. Elle ne doit jamais être aveugle ni inconditionnelle. L'obéissance est la soumission aux préceptes légitimes du supérieur, mais le supérieur créé n'est jamais un supérieur infini, même le pape. Et dans cet ouvrage-là, le Père Calmel a cette formule que je trouve décisive. Il nous dit, l'Église n'est pas le corps mystique du pape. L'Église n'est pas le corps mystique du pape. Elle est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas du pape. Le pape est le vicaire du Christ, mais il n'est pas le Christ. Bonhomme. Bon, c'est très bien déjà, attention. Très bien, le vicaire du Christ, mais c'est quand même pas le Christ, hein, faut pas exagérer. Hein. Oui, donc des limites. Le supérieur n'est pas infini, etc. Et parce que l'autorité du supérieur est toujours limitée, parce que d'autre part, elle est exposée à devenir négligente ou abusive, le sujet ne peut pas s'en remettre aveuglément à son supérieur, quel qu'il soit. L'obéissance aveugle n'est pas humaine, et elle n'est pas chrétienne. Nous avons une intelligence, et nous avons la foi, la vertu de foi, et nous aurons à en rendre compte personnellement quand nous arriverons au tribunal de Dieu. La vertu de foi que j'ai reçue au baptême, qu'est-ce que j'en ai fait ? Je ne peux pas la cautériser sous prétexte d'obéissance, absolument pas. Ouais. Alors on entend parfois dire, et le Père Calmel y répond, oui, mais comprenez, il faut obéir, il vaut mieux souffrir par obéissance, et puis on offre ses souffrances pour l'Église, pour tout ce qu'on peut imaginer. Très bien, c'est très beau. Ne disons pas que cette remise aveugle n'en serait que plus mortifiante, n'aboutirait que mieux à nous délivrer de l'amour propre et à glorifier Dieu. Voyons plutôt que cette remise aveugle et inconditionnelle n'est point sensée, ne respecte pas la nature des choses. Or, Dieu n'est pas glorifié par la sottise, même la mieux intentionnée. Dieu n'est pas glorifié par la sottise. Mais non, il est glorifié par notre intelligence et un usage droit de notre intelligence et de la vertu de foi. Nous voulons enseigner une obéissance qui s'exerce dans la lumière de la foi et par amour du Christ. L'obéissance n'est ce qu'elle doit être, ne ressemble à l'obéissance du Christ que si elle va de pair avec le sens de l'honneur et la fidélité à la lumière. Voilà ce que c'est que l'obéissance chrétienne, humaine même tout simplement. Oui. L'obéissance n'est une vertu, une très grande vertu chrétienne, que si elle est accordée à l'honneur. Nous devons savoir, si nous considérons donc l'obéissance dans la Sainte Église, nous devons savoir que la confession de la foi est supérieure à l'obéissance, qu'elle passe bien avant, car la confession de la foi est un acte propre de la vertu de la foi, encore qu'elle en soit l'acte extérieur, alors que l'obéissance, elle, n'est que l'exercice d'une vertu morale. Et donc, il ne faut pas inverser les choses. Et on nous dit, mais l'obéissance passe avant la foi. Non, ceux qui nous disent cela sont des, ils n'ont rien compris, je dirais, à l'ordre théologal, à l'ordre de l'Église, à l'ordre de la vie intérieure, de la vie spirituelle. Non, l'obéissance ne peut pas transcender la foi. Hein. Et malheureusement, et c'est le père Leflocq hein, qui disait cela, oui, le père Leflocq, vous connaissez le père Leflocq, qui était directeur du séminaire français entre 1903 et 1926, était donc supérieur du séminaire français lorsque Mgr Lefebvre était séminariste, et le père Leflocq a été contraint à donner sa démission en 1926 suite à des petites affaires qui se déroulaient actuellement en France. Bon, peu importe, toujours est-il qu'après avoir été justement contraint de quitter son poste, un prêtre lui avait écrit pour lui demander, ce prêtre avait été un peu troublé par ces sanctions, et il lui avait écrit, lui demander que dois-je faire ? Et voici ce que le père Leflocq lui avait répondu, 1926-27. L'hérésie qui naît sera la plus dangereuse de toutes. Elle consiste dans l'exagération du respect dû au pape et l'extension illégitime de son infaillibilité. Père Leflocq en 1926, Pie XI. Voilà, il voyait déjà venir ce danger voyez, de l'autoritarisme, disons, des pontifes, voyez, de ce que j'appellerais, moi, l'infaillibilisme. À savoir, le pape ne peut jamais se tromper en quoi que ce soit. Non, ce n'est pas cela, la pensée de l'Église, ce n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il y a des conditions très précises pour l'exercice de l'infaillibilité pontificale qui existe, qui est bien réelle, mais qui n'est pas universelle. Ça n'est pas vrai, cela. Oui. Et l'infaillibilisme est conduit soit au chédévacantisme, le pape est toujours infaillible. Or, le pape a dit une boulette, donc il n'est pas pape. Mais c'est logique, c'est là, c'est tout à fait logique. C'est pas pif, en avant, ça tombe tout droit. Ou bien au contraire, eh bien, ça conduit au ralliement. Le pape est infaillible, tout ce que dit le pape est vrai, donc j'obéis en tout, et même ce que je comprends pas, même ce qui me paraît idiot, etc., ou je sais pas quoi, etc. L'obéissance en viendrait, et ça, je le sais, je sais que ça se dit quelque part, ça. L'obéissance en vient à rendre bon des actes mauvais. Oui. Par obéissance, c'est fini. Non, puisque j'obéis, tout ce que je fais est bon. Non, ce n'est pas vrai. Ça n'est pas catholique, cela. Et il faut faire attention, vous voyez, certains auteurs, il faut être romain, bien sûr, nous sommes romains, mais il y a des limites à la romanité, comme il ne faut pas exagérer, vous voyez, ce culte, cette dévotion au pape, il ne faut pas faire du pape le Christ, justement, vous voyez, il faut quand même lui laisser sa situation, sa place, qui est la première dans l'Église, c'est bien évident, il ne s'agit pas de lui refuser ses privilèges qui sont uniques, hein. Mais attention quand même, hein. Et quand on lit, vous voyez, par exemple, pourtant c'est un prêtre que j'aime beaucoup, mais qui parfois a des formules un peu... Si le pape n'est pas le maître dans l'Église, il n'y a plus d'Église. Par rapport au pape qui transcende tout, le pape qui transcende tout. C'est une formule qui me gêne un peu. C'est peut-être vrai, ça pourrait être entendu un peu dans l'ordre disciplinaire, peut-être, bon, il y a encore, ça serait à voir... Mais pas plus, hein. Le pape ne peut pas tout transcender, non, ce n'est pas le pape qui transcende tout, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui transcende tout, c'est la foi qui transcende tout, mais ce n'est pas le pape, oui. Et le pape lui-même est transcendé par la foi, il est le serviteur de la foi, il est le serviteur de l'Église, il n'est pas le maître de l'Église, c'est le Christ qui est le maître de l'Église. Oui. Voilà un peu quelques considérations, j'ai été long, hein, excusez-moi, mais je crois que c'était... Peut-être pas mauvais de rappeler un petit peu tout cela. C'est des choses que vous connaissiez peut-être un petit peu. Mais il faut faire attention. Moi, je crois que nous pouvons dire. Hein. Je ne veux pas accuser, dirais, tel ou tel personnage en particulier. Il ne s'agit pas de dire c'est le pape le grand coupable. Il y a tout un système, je dirais, qui est installé. Mais il est clair que l'Église actuellement vit, subit une véritable tyrannie, au sens propre du mot tyrannie, c'est-à-dire le gouvernement pour des intérêts particuliers, et non pas pour le bien commun. Et donc l'Église actuellement, je crois, est dans une situation de tyrannie, abus de pouvoir, abus d'autorité, au profit justement d'un certain bien particulier, le bien d'un groupe, le bien d'une société de pensée, le bien de tout ce qu'on peut imaginer, etc., mais qui est contraire au bien commun de l'Église. Je dirais, on le voit, la situation de l'Église le manifeste tous les jours. Hein. Et ce bien commun de l'Église, eh bien, c'est la diffusion de la charité, la diffusion de la vérité, la diffusion de la sainteté, la sanctification des âmes. Hein. Et un pape, quel qu'il soit, et des cardinaux et des évêques, n'ont pas le droit, ce n'est pas pour cela qu'ils ont reçu l'autorité de Dieu, n'ont pas le droit de livrer l'Église aux nouveautés, de livrer l'Église aux valeurs libérales du siècle et du monde. Ils n'ont pas le droit de désorienter l'Église, vous voyez, d'humilier même, d'aller jusqu'à humilier notre Seigneur Jésus-Christ, en le ravalant, eh bien, au niveau des faux dieux qu'adorent d'autres soi-disant religions. Et donc, il y a, je crois, pour chacun d'entre nous, un devoir grave, non seulement bien de ne pas obéir à cette orientation, disons, cet esprit conciliaire, mais d'agir contre cet esprit conciliaire, pour en délivrer l'Église. Oui. Et c'est pour cela, bien, je crois, que Mgr Lefebvre, justement, a voulu donner à l'Église eh bien, des évêques pour la délivrer, hein, la libérer un peu de cet esprit conciliaire. Oui. Cette opération survit. Et donc, je pense qu'effectivement, Mgr avait non seulement le droit, selon le droit, je dirais, mais même le devoir, selon, je dirais, l'ordre théologal, le devoir de sacrer des évêques en 1988. Et en faisant cela, contre la volonté du pape, contre la volonté de tout ce que l'on voudra, et là, je crois qu'en faisant cela, il a pratiqué, justement, la vertu d'obéissance au degré héroïque. Ainsi soit-il. Les journalistes le disent, oui, les évêques le disent, mais le pape l'a jamais dit, moi j'attends qu'ils le disent. Moi je crois qu'il faut se défendre, hein. On nous colle cette étiquette de schismatique et d'excommunié, or elle colle pas. Donc il faut pas se la laisser coller, il faut se la décoller tant qu'on peut. Alors on nous accuse, on nous traite de tous les noms, et bon, mais je crois qu'il t'entend, il faut savoir un petit peu se défendre, hein. Moi, bon, sans faire la guerre, mais dis, mais d'où vous sortez ça? Disons que l'Église conciliaire est une Église schismatique. Mais où est l'Église conciliaire? Qui en est? Alors, c'est un autre problème, ça. Bon, voilà. Mais il y a cette sorte de petite société qui noyaute l'Église, c'est sûr, n'est pas catholique. Alors. Mais vous savez, bon, ça, c'est un autre. quelles sont ces frontières à l'Église conciliaire? Non, c'est un corps étranger dans l'Église, donc un jour ou l'autre, il y aura un phénomène de rejet. Hein. C'est normal.
Et s'il vous plaît, à la fin des séminaires, on demande un serment d'obéissance.
Les séminaristes prêtent donc le serment antimoderniste, le serment de fidélité prescrit par Pie XI. C'est quoi encore? Ah oui, puis il y a un serment, c'est pas un serment, c'est une déclaration, une promesse plutôt, de fidélité à la fraternité. Bon, mais ça, c'est cohérent, ça, hein, c'est normal, puisque nous sommes membres d'une société quasi-religieuse, eh bien, on demande justement d'assurer, de promettre, eh bien, de rester fidèle, eh bien, à la ligne de la fraternité, au... Oui, oui.
Mais par ailleurs, chez les autres, en dehors de la fraternité, dans les séminaires autres,
oui. Il y a quelques années, a été mis au point un nouveau serment de profession de foi, je crois, mais qui n'a rien à voir avec tout ça, non. Qui leur fait prêter serment, ben, d'avoir la foi catholique, en gros. Et d'admettre les définitions, les décisions de l'autorité, etc. Ils ont une nouvelle, ils ont changé la profession de foi que nous faisions jusqu'ici. Ils ont fait une nouvelle formule qui est un peu plus large, un peu plus moins carré, si on peut dire. Hein. Car toutes les références aux erreurs modernistes, etc., tout cela, bien sûr, a été gommé, supprimé, ça c'est clair. Hein. Et pour l'instant, il y en a un qui nous a rejoint, mais vous savez, c'est que la pression morale est telle. Hein. Il y a un peu tout le battage qui se fait. Et aujourd'hui, pour se déclarer pour Mgr Lefebvre, quand on est évêque, il faut du courage. Hein. Pour l'instant, il y en a un qui s'est déclaré, bon, Mgr Lazo, des Philippines, parce qu'il a découvert, même à la limite, il a compris le problème très tard. C'est quand il a été à la retraite qu'il a eu le temps de lire, etc., et qu'il a compris. Bon, alors maintenant, il a bien compris, mais... Eh oui, mais ça c'est un mystère. Hein. Même au Concile, il y a ces 450 prélats qui ont résisté avec Monseigneur, qui ont fait des pétitions pour ceci, pour cela. Il y en a deux qui, après, ont continué. Deux. Pourquoi les autres? Pourquoi les autres se sont arrêtés?
Il n'y avait que deux avec Monseigneur qui...
Après. Au Concile, non, ils étaient beaucoup plus nombreux, mais après le Concile, il n'y en a plus que deux qui ont continué à mener le combat. Hein. Mgr de Castromayeur et Mgr Lefebvre. Et Mgr l'expliquait, même pour la signature des textes conciliaires, c'était toujours, vous voyez, l'autorité du pape. Le pape le veut, le pape a signé, donc il faut signer. Il ne faut pas faire de peine au pape, en gros. Quoi, hein. Et oui, c'est ça, toujours pareil. On a eu de trop bons papes, si on peut dire. Hein. Si j'ose dire. Hein. Et Pie XII, il n'y avait pas de problème, si on, il ne fallait pas, se casser la tête, ça allait tout seul. Hein. Eh oui. Oui, vous avez monsieur l'abbé Ruchot, par exemple, qui est là, vous voyez. Et au sujet de la juridiction, ces prêtres sont un peu dans le même cas que nous. C'est la suppléance de l'Église, simplement. C'est l'Église, c'est l'argument de la suppléance. Et si nous n'avons pas de juridiction pour vous confesser, vous marier, etc., mais on est dans une telle situation de nécessité que c'est le droit de l'Église. Oui, qui ponctuellement, chaque fois qu'il y a un besoin, une demande d'infidèle, eh bien, nous donne la juridiction que nous n'avons pas. Oui, c'est prévu dans le droit. Il y a un besoin d'infidèle, il n'y a pas moyen d'avoir un prêtre pour nous marier de façon correcte ou pour nous confesser comme il faut. Eh bien, on demande au premier prêtre qui vient, ben voilà, même s'il est tradit, même s'il est ceci. Eh oui. Non, mais c'est sûr, ça. Et tout ça, c'est des arguments, on dirait, de bon sens, tout ça. Mais ces arguments, nous ne pouvons pas les faire valoir parce qu'on ne nous écoute pas. De toute façon, depuis 88, on ne nous écoute plus, ça, c'est clair. Hein, ça, nous n'existons plus. Hein, ça, c'est... Une fois, quelqu'un me demandait, je me disais, mais pourquoi vous ne faites pas un recours? Mais les recours qu'a fait Monseigneur ont été rejetés sans être examinés. Puis d'autre part, je crois que la situation est telle maintenant... C'est ce qu'avait dit M. l'abbé Schimmelberger il y a quelques années, quand il était question un peu, peut-être, de... Il dit, nous commencerons par une discussion doctrinale. Tant qu'on ne sera pas d'accord sur la doctrine, c'est pas la peine d'aller plus loin. Que l'on examine justement ce qui détruit l'Église, ses thèses conciliaires, la liberté religieuse, le communisme, qu'on examine tout ça, qu'on arrive à éliminer ce qu'il y a de tordu là-dedans, et après, ben, on verra. Mais ce qui compte, c'est pas nous. À la limite, on se bat pas pour nous. La fraternité se bat pas pour elle-même. On compte pour du beurre, nous, là-dedans. On se bat pour Dieu, pour la foi, pour les âmes. Et voilà, ce que l'on veut, c'est que la doctrine soit rétablie. La fraternité, elle sera rétablie s'il faut, quand le bon Dieu voudra. Ça, c'est, à la limite, c'est secondaire, ça. Hein. Et ceux qui nous diraient que me regarder un peu, si, quand même, ça... Ça va mieux, il y a un retour à la tradition, on nous le dit ça périodiquement. Regardez bien l'attitude de Rome vis-à-vis des orthodoxes qui voudraient rejoindre l'Église catholique, là-bas, dans les pays de l'Est, où l'on interdit aux prélats locaux de les accueillir dans le sein de l'Église catholique et on leur demande de les renvoyer à l'orthodoxie pour ne pas gêner la l'host politique. Dramatique, cela. Regardez Utunum Sint et la lettre que le pape a faite au cardinal Ratzinger dans laquelle il envisage la possibilité de réexaminer le mode d'exercice de la primauté. possibilité de trop déplaire aux protestants, aux orthodoxes, donc la primauté de Pierre, eh bien, on va essayer de trouver une autre façon de l'exercer. Bon, si vous voulez, alors moi je veux bien que ce soit un retour à la tradition, mais je ne sais pas à quelle tradition, hein.